Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Bonsoir, bienvenue dans Europe Soir. Info, interview, débat, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et il est 18h. Et au sommaire de vos deux heures d'information, la Finlande annonce officiellement sa volonté d'adhérer à l'OTAN avec les conséquences qu'elle sait vis-à-vis de la Russie. 1340 km de frontière séparent les Finlandais des Russes, mais cette séparation est beaucoup plus profonde quand on sait le cauchemar que la Russie a fait vivre à ses voisins pendant près d'un siècle. Dag Sebastian Nylander, ancien ambassadeur de Suède, grand connaisseur de la Finlande ainsi que de la Russie et des pays baltes, nous en dira plus dans un petit instant. Emmanuel Macron en déplacement à Abu Dhabi, à peine le quinquennat commencé, le chef de l'État s'assure de la pérennité des relations avec les Émirats, pays stratégique pour la France. Le président ne privilégie-t-il pas l'international dans une France pessimiste, obnubilé par le pouvoir d'achat? L'expert en communication politique Florian Silnicki nous répondra. Charles de Foucault, tour à tour soldat, puis dandy fêtard, puis cet ascète devenu prêtre assassiné à 58 ans. Sa canonisation a eu lieu aujourd'hui à Rome. Pourquoi lui? Quel symbole? Pourquoi est-ce important? L'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget, nous attend en direct place Saint-Pierre à 19h15 pour tout nous expliquer. Le burkini vote demain en conseil municipal de Grenoble sur l'autorisation ou non de ce vêtement dans les piscines publiques. Éric Piolle le veut, l'opposition dit non, et les grenoblois dans tout ça. Et puis la MotoGP, pas de podium pour Quartararo. Axel May nous racontera à 18h15 l'invité politique, Philippe Ballard, porte-parole du RN, à un mois des législatives où est passée Marine Le Pen. 18h30, les débats politiques, ça se discute, Frédéric Dabi de l'IFOP contre William T du think tank Le Millénaire. 19h30, nouveau rendez-vous, Europe Panorama, quand les Français ont changé leurs habitudes de partir en vacances. La tendance météo, Valérie Darmon.
6 départements de la Manche à la Normandie, toujours en vigilance orange orage, et ce jusqu'à 22h. Actuellement, les cellules les plus orageuses concernent la région de Rennes et du Mans.
Merci Valérie Darmon, météo complète en fin de journal.
Europe 1.
Et avec ce premier grand sujet d'actualité, bien sûr, la Finlande qui franchit le pas et qui s'affranchit d'un poids historique. La neutralité militaire, visant surtout à ne pas fâcher ses voisins russes avec lesquels elle partage 1340 km de frontières. La Finlande demande donc officiellement son entrée dans l'OTAN. A priori, tous les pays membres sont pour, sauf la Turquie, qui pour l'instant ne se prononce pas, mais on sait que c'est une alliée de Vladimir Poutine. Cette Finlande, dans l'Europe, dans l'Union européenne, a pris une décision dans l'urgence, voyant ce qui pouvait se passer avec la guerre en Ukraine. Mais cette histoire-là n'est pas la seule. Et c'est un ancien ambassadeur de Suède qui va nous la raconter. Dag Sebastian Nylander, bonsoir, monsieur l'ambassadeur.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct de Suède. Je précise que vous êtes aussi d'origine finlandaise par votre famille, que vous connaissez ce pays très bien, ainsi que la Russie. Peu de gens le savent, mais la Finlande et la Russie, c'est une cohabitation très ancienne et souvent houleuse.
Oui, c'est vrai. Vous savez, la Finlande faisait partie de la Suède pendant 600 années. Donc, c'était une minorité finlandaise qui parle encore suédois, y compris le Marshal Mannerheim, qui a sauvé le Finlande 3 fois contre les attaques soviétiques après la Première Guerre mondiale. Et nous, les Suédois, nous avons toujours historiquement mener maintes guerres contre la Russie. Mais quand Napoléon s'est allié avec la Russie, nous avons perdu la Finlande en 1809.
Et donc
Donc la Finlande faisait partie de la Russie comme une grande duché pendant 100 ans, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale,
oui.
quand le pays est devenu indépendant. La Suède s'est retirée donc des affaires européennes. Vous savez que c'est votre compatriote, le maréchal Bernadotte, qui est devenu roi de Suède. Et comme parvenu, il s'est décidé à la neutralité. Il ne voulait pas se mélanger avec les vieux royautés de l'Europe.
Et donc c'est un moment où la Finlande, si je comprends bien, est devenue indépendante de la Suède, que les ennuis ont commencé avec la Russie.
Oui, c'est ça. Je pense que la Russie considérait la Finlande comme partie de la Russie, mais les Finlandais eux-mêmes se considéraient comme un grand duché séparé avec leur langue, leur constitution suédoise. Donc, il a eu un fort sentiment d'une liberté.
Et donc,
aussi avant l'indépendance.
Et donc Staline, à un moment donné, finit par attaquer la Finlande.
Oui, en 1939.
Ouais.
Staline a attaqué la Finlande dans une guerre qui ressemble beaucoup à la guerre actuelle d'Ukraine. Staline a voulu ressemble tous les pays qui la Russie impériale a perdu pendant la Première Guerre mondiale. Il a voulu gagner la Finlande pour la faire une partie de l'Union soviétique. Mm-hmm. Mais les Finlandais, sous le maréchal Mannerheim, se défendaient bien. Mais à la fin, ils ne pouvaient pas gagner. Mais ils sauvegarder leur indépendance et sa indépendance et sa démocratie. Et c'était la chose importante pour eux.
Mais alors justement, comment est-ce qu'ils sont parvenus à contrer la Russie, l'URSS, en gardant leur indépendance? Parce que c'était facile pour les Russes d'annexer la Finlande.
Non, c'était la même chose comme en Ukraine aujourd'hui. Mmh. Les Russes sont allés en grande colonne avec leurs panzers, leurs voitures. Et les Finlandais sont des bons skieurs qui entouraient les véhicules militaires soviétiques et qui ont tué maintes soldats bolcheviques. Et pendant presque 2 mois, ils ont presque gagné la guerre. Mais ensuite, Staline a jeté encore 1 million de soldats envers la Finlande et c'était donc impossible pour eux.
Donc vous voyez, c'est quand même très très intéressant pour nous, Français, de découvrir cette histoire passée entre la Finlande et la Russie qui ne prend pas racine aujourd'hui, mais bien dans le passé et dans les 100 dernières années. Cette démarche aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur, elle était nécessaire, elle était cruciale, elle était fondamentale avec ce qui se passe en Ukraine. Les Finlandais ont pris peur, ils se sont dit « oulala, c'est exactement ce qu'on a vécu dans le passé qui peut se reproduire ?»
Absolument, j'y pense. Pour nous, c'est intéressant, c'est bouleversant même, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, la Suède a toujours pris en considération spéciale la situation de la Finlande. Et tout d'un coup, maintenant, le Finlande, c'est l'inverse, le Finlande qui mène le bâton de mesure. Mm. Donc, c'est comme si le frère cadet a guidé le frère aîné. Pour nous, les Suédois, c'est très bouleversant. Mais personnellement, j'y suis contente.
En tout cas, cette décision des Finlandais, elle prend place aujourd'hui. La Finlande qui, officiellement, fait part de sa volonté d'adhérer à l'OTAN. Les Russes, vous qui les connaissez, vous qui avez été en poste en Russie, à Leningrad, devenu Saint-Pétersbourg, comment est-ce qu'ils peuvent réagir?
Les Russes, je ne sais pas, j'espère qu'ils sont occupés en Ukraine. J'espère qu'ils n'ont pas des ressources supplémentaires pour nous attaquer ou pour nous gêner, mais on ne sait pas. Mais comme une fois en OTAN, je pense que notre situation devrait être différente et beaucoup plus sûre.
Merci beaucoup, merci Excellence, Monsieur Dag Sébastien Allender, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1 de Suède. Je signale justement, puisqu'on en a parlé dans notre entretien, que vous publiez une biographie de Carl Gustav Mannerheim, ce maréchal de Finlande qu'on peut carrément comparer au général de Gaulle. Et puis parce que c'est aussi un symbole, le patron de l'OTAN a félicité Kalush Orchestra, vous savez, ce groupe ukrainien vainqueur de l'Eurovision hier. C'est tout un symbole, écoutez Jens Stoltenberg.
Je voudrais féliciter l'Ukraine pour sa victoire au concours de l'Eurovision. Et je ne le fais pas de manière légère, car nous avons vu hier l'immense soutien du public dans toute l'Europe et en Australie.
Voilà, évidemment, venant de lui, ces félicitations ne sont pas passées inaperçues. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette fusillade aux États-Unis. Un suprémaciste blanc de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché dans l'État de New York. Au moins 10 personnes ont été tuées, dont une majorité d'Afro-Américains. On y revient dans le journal de 19h. Il n'était pas le seul, Emmanuel Macron, non, puisque les dignitaires du monde entier se sont précipités aux Émirats Émirats arabes unis pour rendre hommage au cheikh Khalifa Ben Zayed, décédé vendredi. Boris Johnson, Kamala Harris, Anthony Blinken, Felipe d'Espagne, le président israélien Isaac Herzog, tous ont donc défilé, condoléances à la pluie et parlé avec Mohamed Ben Zayed, le nouveau chef d'État émirati, puisqu'Emmanuel Macron l'avait déjà rencontré récemment à l'occasion de la signature d'un contrat d'armement. Les deux hommes se sont donc entretenus, Emmanuel Macron exprimant sa détermination à poursuivre et à développer tout ce qu'ils ont entrepris ensemble depuis 5 ans. Les Émirats Arabes Unis sont un partenaire stratégique de la France. L'ampleur de notre coopération, dit l'Élysée, dans des domaines aussi variés que la défense, la culture ou l'éducation. 18h10, vous restez avec nous dans un instant. Le burkini à Grenoble fait débat. Feu vert ou feu rouge dans les piscines municipales. Le vote a lieu demain. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
C'est donc demain qu'aura lieu le vote sur l'autorisation ou non du port du burkini dans les piscines de Grenoble. Un débat très politique avec d'un côté le maire écologiste de Grenoble qui porte cette mesure au nom de la liberté de choix pour les femmes, dit-il, et une opposition déterminée, y compris dans les rangs de la majorité d'Éric Piolle qui refuse le burkini comme symbole de la soumission de la femme. Mais au fond, qu'en pensent les principales données, les principales intéressées, les femmes musulmanes de Grenoble? Ont-elles envie de porter le burkini à la piscine? Est-ce un progrès pour elles ou au contraire une régression de leur droit à disposer de leur corps? Réponse avec ce reportage de notre correspondant dans la région, Jean-Luc Bougeon.
Premier constat, beaucoup de ces femmes sont loin des débats enflammés qui agitent la sphère politique. Pas question pour elles d'en faire un combat de civilisation, même si le sujet est tout de même important à leurs yeux. Par exemple, le burkini permettrait enfin à Olfa d'accompagner ses enfants à la piscine, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.
Comme c'est interdit, franchement, il y a des enfants qui ne peuvent pas y aller à la piscine parce que leur maman, elle ne peut pas aller avec eux. Je peux surveiller les enfants dans les vestiaires, en fait, mais pas dans l'eau.
C'est utile, donc.
Oui, c'est une bonne chose.
Sabrina a 17 ans, elle aussi portera le burkini à la piscine s'il est autorisé, au nom de sa liberté de jeune femme.
On est libre, on est en France, et la liberté, quoi. Et le burkini, c'est important dans notre religion. J'ai entendu parler comme quoi c'est l'homme qui lui impose ça, alors que pas du tout, ça sera mon choix à moi.
Reste que beaucoup de femmes musulmanes, surtout celles de 30 ou 40 ans, n'en voient pas l'utilité. C'est un mauvais combat pour Sarah et Chérifa.
Moi, le burkini, je suis contre. Pour les burkinis, je trouve ça vulgaire, en fait. C'est très moulant. Ça fait encore des histoires pour rien, en fait. Je trouve que ça va pas dans notre sens. S'ils ont décidé de mettre le foulard, ils ont rien à faire dans des piscines municipales. Voilà.
Moi, je suis de religion musulmane. On est dans un pays européen. On s'adapte.
Et ces femmes de conclure, on doit respecter les règles en vigueur autour de nous. Et franchement, l'été, on est quand même mieux en maillot de bain. Grenoble, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et à midi, encore sur Europe 1, Éric Piolle a prôné le burkini dans sa ville au nom du principe de laïcité inscrit dans la loi de 1905. Autre mesure sur le territoire national, cette fois le port du masque, terminé totalement dès demain, y compris dans les transports, bus, métro, train, avion. Il restera en revanche de mise dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Charles de Foucault, ce nom vous est peut-être étranger ou pas, vu que la presse en parle depuis plusieurs jours. Il est l'un des 3 bienheureux Français à avoir été canonisé ce dimanche à Rome. L'église accueillait en ce jour 10 nouveaux saints au total. Reportage de notre correspondant à Rome, Antonino Gallofaro.
Aux abords de la place Saint-Pierre, on croise un petit garçon. Il s'appelle Foucault, comme l'homme qui est devenu saint aujourd'hui, sa maman.
Il a été baptisé Foucault parce qu'effectivement, c'est une vie. La vie de Charles de Foucault nous avait particulièrement marqué. On est très content d'être là et qu'il puisse assister à la canonisation de son saint patron de son vivant. C'est une belle expérience spirituelle.
Les pèlerins français aujourd'hui à Rome sont nombreux. La figure de Charles de Foucault en a marqué beaucoup, c'est le cas de Thibault.
À titre personnel, je la connais depuis l'enfance. Et donc c'est un chemin qui nous a menés jusqu'ici. Ça fait très longtemps qu'on attendait cette canonisation. Pour nous, c'est quelqu'un qui représente beaucoup, sur le plan à la fois de la foi et puis du fait d'être français.
3 Français au total sont devenus saints aujourd'hui. Il y a aussi César de Bus et Marie Rivier. Et c'est cette dernière qui a marqué Léna, une petite fille d'une dizaine d'années.
Par exemple, Pierre, à l'église, on nous a présenté une petite fille qui a été miraculeusement soignée par Marie Rivier et elle a été guérie en priant Marie.
Comme Léna, près de 45 000 personnes ont assisté à la messe de canonisation, place Saint-Pierre. Rome, Antonino Gallofaro, Europe 1.
Et on en reparle de cette canonisation, de l'histoire folle de ce dandy aristocrate devenu quasi-ermite avec Monseigneur Mathieu Rouget qui se trouve justement à Rome tout à l'heure à 19h15. On reste en Italie si j'ose dire, même si c'était le Grand Prix de France en MotoGP, mais c'est bien Enea Bastianini sur Ducati qui a eu raison des Français Quartararo et Zarco, Axel May.
Eh oui, le public à plus de 100 000 personnes après 2 ans marqués par la pandémie a eu beau chanter la Marseillaise. Ce soutien du public n'a pas suffi. Fabio Quartararo, le champion du monde en titre, un premier Français de l'histoire, rappelons-le, à avoir décroché un titre dans la catégorie reine. Fabio Quartararo s'était lancé en quatrième position cet après-midi. Il a fini à la même place sans avoir été en mesure de se battre avec les meilleurs, dont le vainqueur italien. Écoutez la réaction du pilote niçois au micro de nos confrères de Canal+.
Sincèrement, la seule chose que je peux dire, c'est merci au public d'être venu pour le support. Vraiment, c'était incroyable de voir autant de fans, mais sur la performance, j'ai rien à dire. Sincèrement, on ne peut pas dépasser. Il nous manque toujours la même chose, c'est que j'ai aucune opportunité de faire un dépassement. Quand on est bloqué derrière et qu'on n'arrive pas à doubler, ça donne un résultat comme celui-là.
Oui, depuis le début de la saison, sa moto Yamaha, pour ne pas la citer, manque de puissance. Et vous avez entendu cette frustration d'El Diablo, comme il est surnommé, Quartararo, qui reste malgré tout leader du championnat. Zarco, l'autre Français, a fini cinquième sur le circuit Manso. Pour le reste, ce fut un Grand Prix de France typique, avec tout ce qui fait le charme de la moto GP. Des chutes quand elles sont sans gravité, des pilotes acrobates, des dépassements. Je rappelle la vitesse de pointe quand même. Plus de 350 km/h sur un deux roues, c'est... Oui, ça fait rêver ou ça peut faire peur.
Ça fait rêver. Moi, ça me fait rêver encore aujourd'hui. Merci, Axel May. Une reine polonaise à Rome, Iga Świątek remporte pour la cinquième fois le Masters de Rome. La jeune de 20 ans, numéro 1 mondial, a battu la Tunisienne Jabeur 6-2, 6-2. On a hâte de l'accueillir à Roland-Garros, tout comme Djoko qui a sorti Tsitsipas 6-0, 7-6 et qui remporte lui aussi ce Masters de Rome. On passe à la météo, Valérie Darmon, et prudence dans l'ouest à cause des orages.
Effectivement, sur les départements placés en vigilance orange, c'est-à-dire toujours les 6 allant de la Manche à la Sarthe en passant par l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime, les orages jusqu'en milieu de soirée s'annoncent donc virulents. Reste aussi en cours de soirée en moins intense des cellules orageuses du sud-ouest au nord, s'accompagnant toujours de brusques rafales de vent de 80 à 100 km/h. Parfois un petit peu plus, de chutes de grêle et le risque orageux qui va s'atténuer en début de nuit. Donc demain matin, le ciel va rester nuageux sur la moitié nord, donnant quelques averses toujours sur la Bretagne, des ondées orageuses du massif central au plateau lorrain. Dans l'après-midi, l'activité se renforce sur l'Alsace et la Lorraine avec des averses et des coups de tonnerre un petit peu plus nombreux. De la pointe bretonne à la frontière nord, le ciel va rester gris avec quelques pluies. De l'Aquitaine au sud-est, les éclaircies plus ou moins larges reviennent. Il va continuer de faire chaud. Les maximales affichent 20 à 25 sur un bon quart nord-ouest, 24 à 29 sur le reste de la France.
Merci Valérie Darmon, vous restez avec nous dans un instant. Tiens, mais où est passé Marine Le Pen ? Philippe Ballard, porte-parole du RN, est avec nous en direct. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Et à 18h20, ça sera comme ça désormais, l'interview politique. Bonsoir à vous Philippe Ballard.
Bonsoir.
Conseiller régional d'Île-de-France, porte-parole du RN, candidat dans la deuxième circonscription de l'Oise pour ces législatives qui approchent. Pardonnez-moi de vous poser la question directement, mais à un mois de ces législatives, où est Marine Le Pen ?
Ah, écoutez, lancez pas d'avis de recherche, hein. C'est pas la peine. Après le 24 avril, Marine Le Pen a pris quelques jours de repos, bien mérité, parce qu'il faut quand même rappeler et se souvenir qu'elle a commencé sa campagne dès le mois de septembre, hein, 2-3 déplacements par semaine à la rencontre des Français. Bon, elle méritait quelques jours de repos. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu cette séquence médiatique. Mélenchon, on peut l'appeler ainsi. Vous vous êtes intéressé, vous, et vous avez bien fait, journaliste, média.
Vous connaissez le métier, Philippe Ballard.
Voilà, absolument. Une espèce en voie de disparition, la gauche, qui, après quelques accords de boutiquier, a fini par nous trouver le NUP, qui va sans doute faire pchit d'ici quelques semaines, parce qu'on sait qu'il y a il y a des dissensions. Vous avez des candidats qui se présentent contre le candidat officiellement investi par la NUP. Vous suivez ça quotidiennement. Des barons locaux, notamment socialistes, voire communistes, qui n'acceptent pas ces décisions. T'as Abouaf. Je crois que c'est pas au moins de me prononcer, dissident ou pas, c'est pas notre problème.
Non, enfin, tout ça va
faire pchit. Oui. Et il est évident que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais, jamais, jamais Premier ministre. Voilà. Et Marine Le Pen, pour répondre directement à votre question, eh bien depuis quelques jours, fait des 20h, fait des matinales radio, accorde des interviews à des journaux. Je pense à l'interview dans le Figaro.
Vous
voilà.
Savez, c'est comme
Marine
dans les courses à pied.
C'est la principale opposante.
Philippe Ballard, vous savez très bien, c'est comme dans les courses à pied ou dans les courses en tout genre d'ailleurs. Vous connaissez le métier justement. La NUP a occupé, vous l'avez dit, l'espace médiatique quasiment le dimanche soir du second tour, à tel point que certains Français, j'en suis sûr, ont oublié que c'est bien Marine Le Pen qui était au second tour, qui était arrivée deuxième au premier tour et non pas Jean-Luc Mélenchon.
Ah, ça, j'en suis pas si sûr. Je pense que dans l'esprit des Français, elle est la principale opposante. Vous savez, là, on distribue beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai passé ma journée sur le terrain à distribuer des tracts. Et dans l'esprit des gens, la principale opposante, c'est Marine Le Pen. C'est elle qui instaure cette division entre les nationaux d'un côté, qu'elle incarne, que le Rassemblement National incarne, et puis les mondialistes incarnés par Emmanuel Macron. Ce duel entre les élites et le peuple, c'est nous, les élites, c'est Emmanuel Macron.
C'est exactement ce que dit la NUP, hein, pardonnez-moi. Mais...
Non, parce que eux, ils se rangent dans le camp des mondialistes. Ils sont internationalistes dans leur gène, puisque ce sont des no-borders, nos frontières. Pas de frontières. Nous, on pense que les frontières protègent, au contraire. Donc, je pense qu'ils n'instaurent pas du tout. Puis, alors, pardon, mais non, c'est une excellente réflexion que vous faites. Mais Jean-Luc Mélenchon se souvient de ces phrases. Mmh. Pas une voix pour Marine Le Pen. Il l'a martelé à plusieurs reprises. Pas une voix pour Marine Le Pen. Donc, par ricochet, des voix pour Emmanuel Macron. Et à l'arrivée, maintenant, il vient chouiner parce qu'on risque d'avoir la retraite à 65 ans.
Mais peut-être parce qu'il avait un plan très précis de devenir le premier ministre d'Emmanuel Macron. À force, vous savez comment ça marche, les slogans. À force, les gens vont y croire, hein, de cette possibilité.
En faisant 28% dans tous les instituts de sondage. Et puis, je pense que les Français sont adultes. On les a un peu infantilisés pendant la crise de la Covid. Ils savent regarder une carte électorale. Il suffit de regarder une carte électorale pour comprendre. Il y a des places fortes, oui, c'est vrai, pour aller l'extrême gauche au sens large. Mais il y a des déserts. Total, donc il ne sera jamais premier ministre.
Donc, enfin, ça a le mérite d'être souligné. C'est l'une des raisons pour lesquelles Marine Le Pen n'a pas dit moi, je serai premier ministre. Elle n'a pas surenchéri parce qu'elle sait que c'est impossible.
Bah écoutez, je renvoie son interview dans le Figaro avant-hier, dans ce qu'elle déclare depuis quelques jours, dans ses interviews télé ou radio. Mmh. On regarde les sondages, hein. Il y a eu un sondage Kantar qui nous donnait entre 80 et 125 députés, un autre 65 à 120. 60, ça permet, alors 15 déjà, on a un groupe parlementaire, et 60, on peut saisir le Conseil constitutionnel. Ça permettrait d'entraver le travail de casse que pourrait mener Emmanuel Macron, casse sociale, saignée fiscale, immigration incontrôlée, insécurité grandissante, etc., etc., etc. Donc, avoir des députés à l'Assemblée nationale qui permettent d'entraver ce travail de casse d'Emmanuel Macron serait déjà une première victoire.
Alors justement, travail de casse, ça veut dire, si je vous comprends, d'avoir un vote d'obstruction par défaut, des textes qui patinent, des réformes inapplicables, une Assemblée qui n'arrive pas à avancer.
Bah c'est le jeu démocratique, c'est tout simplement quand on fait 13 500 000 voix, 42%, on est quand même en droit de faire entendre la voix des Français qui vous ont fait confiance. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'abstention, qu'il y a eu des bulletins blancs. Je pense qu'Emmanuel Macron, qui est quelqu'un d'intelligent, sait très bien que les 5 ans qui s'annoncent vont être extrêmement difficiles pour lui.
Mais alors du coup, dans cette Assemblée où on n'avance pas, le pays n'avance pas, vous ne pensez pas que les Français en ont un peu marre des slogans, des disputes, des scissions, des récessions? Enfin, je ne parle même pas de l'inflation parce que c'est leur sujet numéro un dans leurs préoccupations.
Ah oui, ça je vous confirme, c'est le pouvoir d'achat et la sécurité, c'est ce qui est revenu mais alors toute la journée dans les conversations. Non mais avancer dans la bonne direction, oui, incontestablement, mais la direction que nous fait prendre Emmanuel Macron est la mauvaise direction.
Mais les institutions sont faites de cette façon, et vous le savez aussi bien que moi, Philippe Ballard, que de toute façon, c'est avec les projets du gouvernement qu'on arrive à avancer, avec quelques amendements, mais on n'arrive pas à faire plier une politique. Ça n'arrivera pas, et vous le savez aussi bien que moi.
Il peut y avoir des amendements qui vont dans la bonne direction. Je pense à cette retraite des 65 ans qui est un marqueur extrêmement fort. Et entre parenthèses, je reviens un peu à Jean-Luc Mélenchon, mais sa retraite à 60 ans, elle est antisociale. Enfin, Mélenchon est antisocial. Si j'ai le temps, je pourrais vous dire pourquoi. Mais effectivement, il y a des institutions.
Dites-le, je vous donne l'occasion, dites-le.
Alors, c'est très simple. Il a été interviewé il y a quelques jours sur France 2, pour ne pas la citer, dans le 20h, où il était questionné. Est-ce que si on commence à partir à 20 ans, on pourra partir à 60 ans? Oui. On commence à travailler à 23 ans. Peut-on partir à 60 ans? Oui. Alors là, c'est antisocial. Parce que quand on a commencé à travailler à 23, 24, 25, 26 ans, on a fait des études, on a a priori un métier où l'hiver, on est chauffé dans un bureau, où l'été, on a la clim. C'est pas comme sur un chantier, par exemple. Donc, cette mesure est antisociale. Il y a des gens qui pourront travailler 35 ans et avoir la retraite à 60 ans, parce que peut-être que papa et maman a pu leur payer des études. Et ceux qui ont commencé à trimer à 20 ans, bah, seront logés à la même enseigne. Je regrette, c'est de l'injustice sociale totale, absolue. Monsieur Mélenchon n'est pas social.
Je note votre point, Philippe Ballard. Je pense que ça fait partie des débats sur la pénibilité au travail. À l'échelon local, le maire de Grenoble, Éric Piolle, vous l'avez peut-être entendu dans le journal, veut le burkini dans les piscines. Son opposition n'en veut pas. Et vous, est-ce que ça vous choque déjà une telle proposition ?
Ah bah, plus que choqué, c'est irresponsable. Moi, je pense à ces jeunes femmes qui ont eu le courage de défiler à Kaboul il y a quelques jours sur 200 mètres avant d'être stoppées par les talibans parce qu'on leur a imposé de nouveau la burqa. Moi, je voudrais que Monsieur Piolle, il se rende ne serait-ce qu'une journée à Kaboul et qu'il rencontre, qu'il parle avec ces femmes-là. C'est scandaleux ce qu'il fait. Il veut déconstruire la France, mais ce sont les indigénistes qui sont dans ce nup-là avec Monsieur Mélenchon, l'extrême-gauche. On oublie d'ailleurs que Monsieur Poutou avait été associé aux discussions. Lui qui dit la police tue, il y a des dizaines de jeunes qui sont tués dans les cités. Bref, passons. J'ai entendu, moi, les témoignages dans votre journal de 18h de personnes, de femmes musulmanes qui répondaient. Il y avait en fait deux groupes. Il y avait celles qui clairement refusaient l'assimilation, se réfugiaient derrière ce bout de tissu, et puis d'autres éclairées, si j'ose dire, qui disaient « bah oui, on vit dans un pays européen, à nous de s'adapter », c'est le mot qu'elles employaient. Moi, j'aurais préféré qu'elles disent « à nous de s'assimiler », mais bon, déjà, elles comprennent que quand on vient dans un pays, ben, on doit s'adapter tout simplement aux règles, aux lois en vigueur, aux coutumes en vigueur, et pas faire l'inverse. Et Monsieur Piolle est quelqu'un d'extrêmement dangereux.
Mais au-delà de dire « on doit ceci, on doit cela », vous qui êtes candidat dans la deuxième circonscription de l'Oise, l'Oise, c'est un département où effectivement dans certaines villes, dans certains quartiers, il y a ce genre de phénomène. Comment est-ce que vous expliquez aux gens ? Est-ce que vous dites « voilà, c'est comme ça parce que c'est la loi de la République » ou est-ce qu'il y a une forme de pédagogie aussi de votre part ?
Ah ben, y a deux sortes de personnes en quelque sorte. Il y a ceux qui sont déjà convaincus, qu'ils soient d'ailleurs musulmans ou pas, puisque là je faisais référence à ces jeunes femmes qui avaient très bien compris que le burkini était une hérésie.
Toujours faire changer et d'avis puis, les gens, vous le savez bien.
Il y en a quand même qui sont dans une logique communautaire, c'est le communautarisme.
Mais qu'est-ce qu'on fait contre ça ?
Ça doit être une lutte sans pitié. Alors, ça commence déjà par arrêter le flux migratoire incontrôlé, parce que c'est vraiment le début. Et puis après, c'est l'expulsion des imams, des prêcheurs de haine. C'est fermer des mosquées qui sont aux mains des salafistes ou des intégristes. C'est un travail, mais la main ne doit pas trembler. Et on a beaucoup de com' depuis des années de la part des gouvernements successifs. Hein, d'ailleurs, il n'y a pas eu que celui d'Emmanuel Macron, François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Et on n'a jamais, en fait, stopper ce flux migratoire, renvoyer chez eux tous ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national et faire preuve de la plus grande fermeté. Par exemple, je pense à ceux qui sont en prison. Nous, on est pour le rétablissement de la double peine. Vous sortez de prison et on sait qu'il y a des gens qui se radicalisent en prison. Si 25% des détenus sont étrangers, cela, après la prison, ça doit être l'avion. Voilà. Et là, on ne le fait pas. On tremble, on est laxiste, c'est le laxisme à tous les étages en France. Donc c'est pour ça que le 12 et le 19 juin, il faut envoyer le plus de députés Rassemblement National à l'Assemblée.
Pour qu'après, vous portiez des textes justement visant à changer les choses sur ce sujet-là.
Entre autres, oui, mettre fin au laxisme judiciaire, redonner le moral à nos policiers, à nos gendarmes, à l'administration pénitentiaire, à nos pompiers qui se font caillasser, on l'a vu lors d'une manifestation le 1er mai, qui se font agresser par des islamo-gauchistes, par toutes ces petites racailles. C'est insupportable. Les Français ne le supportent plus. Donc voilà, encore une fois, nous on lance un appel pour que le 12 et le 19 juin, vous votiez Rassemblement National pour envoyer le maximum de députés RN à l'Assemblée.
Merci beaucoup Philippe Ballard d'avoir été avec nous, porte-parole du Rassemblement National, conseiller régional d'Île-de-France et candidat donc dans l'Oise pour les législatives. Dans un instant, ça fait débat. Ce sont les débats politiques du dimanche soir. Frédéric Dabi de l'IFOP et William Tay du think tank Le Millénaire. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Ça fait débat, ce sont les débats politiques du dimanche soir sur Europe 1 à 18h35. J'accueille Frédéric Dabi, directeur de l'opinion à l'IFOP. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Bonsoir à William Tay.
Bonsoir.
Fondateur du think tank Le Millénaire. Plusieurs sujets nous attendent, chers amis. On va commencer peut-être par une étude de l'IFOP. Tiens, j'ai lu que 74% des Français veulent une femme Premier ministre.
Oui, voilà, c'est
C'est une question Frédéric que David. Nous avons posée. Ça fait 31 ans qu'il n'y a pas eu une femme première ministre. Emmanuel Macron a envoyé des messages ou la majorité présidentielle sur le profil du futur ou de la future locataire de l'hôtel à Matignon. Clairement, les Français le souhaitent. Alors, maintenant, c'est une question, il ne faut pas lui donner trop d'importance. Ce que je trouve plutôt très notable dans cette question, Pierre, c'est qu'il n'y a pas de clivage particulier. Il n'y a pas une surdemande, par exemple, de la part des femmes, de la part des jeunes. C'est vraiment un souhait massif, très peu de clivage politique également. Voilà, peut-être que le temps des femmes à Matignon est revenu après l'intermède qui a duré à peine 10 mois, hein, en 91-92, d'Edith Cresson. Mais clairement, quand on interroge notamment des femmes sur les avancées, sur les citadelles à abattre, sur les nouvelles frontières, le poste de Premier ministre n'est pas cité de manière très, très nette. C'est surtout la question des inégalités salariales femmes-hommes, notamment chez les jeunes femmes, et puis la question de la prise en charge et, j'avais dire même du châtiment, des violences sexuelles et des agressions sexuelles.
William Tay, il y a des sujets sur lesquels une femme sera plus efficace ?
Je ne le prendrai pas comme ça. Je dirais que c'est plutôt une question de symbole et de complémentarité de profil avec Emmanuel Macron que les Français recherchent. Ce qu'on voit notamment, c'est que vis-à-vis d'Emmanuel Macron, le couple qui a le mieux fonctionné, c'était avec Édouard Philippe. Le moment où ça a le mieux fonctionné avec Édouard Philippe, c'était le moment où il était quasiment sur un style qui était en opposition avec Emmanuel Macron. Et quand on regarde les différents sondages portés sur la question du style, le choix du genre, ou même la question de la politique et même la question qui est posée sur est-ce que les Français veulent une cohabitation, on voit que les Français cherchent un complément à Emmanuel Macron. Et donc, par conséquent, comme Emmanuel Macron est un homme, son complément serait du coup, par conséquent, une femme avec un profil qui serait plus calme.
Ça tombe bien,
sien.
On est trois mecs en studio. Oui, voilà. Je dis ça.
C'est une sorte. Moi, je pense qu'il recherche plutôt un équilibre de complémentarité. Quand on regarde les choix du Premier ministre, notamment quand ils sont effectués en cas de réélection, il y a un cas qui est similaire, c'est que, par exemple, on savait en 88 que François Mitterrand détestait Michel Rocard, mais que les Français voulaient Michel Rocard en opposition à Mitterrand. Parce que comme un président est réélu, forcément, il a très peu de chances de se représenter pour un troisième mandat. Et donc, du coup, il peut être quasiment sans limite.
Vous diriez la même chose de Sarkozy et Fillon ?
Je pense que Sarkozy et Fillon, c'était quasiment une complémentarité.
Dans les enquêtes, n'oublions pas, Nicolas Sarkozy, on fait un petit peu d'histoire à partir de janvier 2008, quand il met fin au travailler plus pour gagner plus, quand il met en scène son bonheur privé, entre Carla et moi, c'est du sérieux, par rapport à l'inquiétude des Français, il devient impopulaire. Il connaît quelques petites progressions, mais il ne redevient jamais majoritaire. Dans le baromètre IFOP-JDD, qui est le plus vieux de la Ve République. Alors que François Fillon est, si je puis dire, majoritaire et populaire pendant quasiment tout le mandat, parce qu'il arrive à bénéficier d'un effet de contraste par rapport à Nicolas Sarkozy. Quelqu'un, entre guillemets, d'agité d'un côté, quelqu'un de calme et de pondéré de l'autre, quelqu'un que même des électeurs de gauche trouvaient, entre guillemets, moins pire que Nicolas Sarkozy. On a souvent eu, comme William le dit, ces effets de contraste entre un président, un premier ministre. Et il y a eu deux cas. Les premiers ministres fusibles, très forts, sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, et puis de plus en plus des premiers ministres, si je puis dire, qui ont laissé le président devenir le paratonnerre. On l'a bien vu, François Hollande, Manuel Valls. Ce qui est très intéressant avec Jean Castex, qui est sur le point de partir, mais il n'a pas démissionné, il est encore et toujours Premier ministre.
Il voulait, et puis finalement, on lui a dit de rester.
Il ne l'est pas, tout à fait, il est toujours à l'hôtel Matignon. Alors, il n'est pas allé à cette cérémonie au Vatican aujourd'hui. Quel est le message envoyé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a paru comme un bon fusil, un bon protecteur du président Macron.
Le message, c'est peut-être parce qu'on va en parler. Il y a le déplacement quand même d'Emmanuel Macron à Abu Dhabi. Il faut quand même que quelqu'un garde la baraque.
Sans doute.
Et en l'occurrence, c'est le Premier ministre. Je crois que c'est Gérald Darmanin, il me semble, qui est parti au Vatican. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire que d'une certaine manière, parce que ça a été évoqué, Frédéric, il y a comme une punition de Jean Castex.
Non. Alors là, vraiment, je sais pas ce que
ça a été évoqué. Et honnêtement, franchement,
ça me paraît extrêmement
honnêtement
farfelu.
Pour tous les services. Jean
Castex. Oui, je pense qu'il y a eu. Non, mais ce qui est très intéressant.
Voilà, coupe au court quand même à la rumeur, parce que c'est.
D'une part, je pense que c'est une rumeur. Deuxièmement, Emmanuel Macron aura réussi à avoir deux premiers ministres quittant l'hôtel Matignon de façon étincelante.
Édouard
Philippe est parti avec un véritable état de grâce. Jean Castex est moins populaire que n'était Édouard Philippe, mais
pas les
Français...
mêmes relations entre les deux hommes.
Voilà, les Français...
Édouard Philippe, quand il part de Matignon...
Oui, il y a peut-être une déception, mais jamais dans nos enquêtes qualitatives, les Français ont exprimé le sentiment qu'il y avait des tensions entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Ce qui relève du microcosme n'est pas toujours perçu par l'opinion.
William T.
Moi, ce que j'observe notamment avec Emmanuel Macron, c'est que vis-à-vis du casting, il effectue plutôt un bon casting dans la mesure où les personnes qu'il choisit lui apportent sur l'instant présent une complémentarité à ce qu'il recherche exactement. Quand Emmanuel Macron nomme Édouard Philippe, c'était à l'époque quelqu'un d'inconnu et qui lui permettait de parler à la droite alors que lui-même venait plutôt du centre-gauche. Mmh. Quand il choisit Jean Castex parce qu'il a un problème au moment des Gilets jaunes, notamment avec les territoires et avec les classes populaires, et Jean Castex lui apporte ça. Et donc la question qui est posée, au-delà de la question du genre qui est certes un élément, c'est plutôt quel est le profil qui manque à Emmanuel Macron. Ce qu'on voit notamment, c'est qu'Emmanuel Macron, même s'il a rééquilibré ce point-là, il a besoin de quelqu'un qui est plus calme que lui. C'est le premier élément. Deuxième point, c'est que son agenda à l'international va être surchargé pour le prochain quinquennat, notamment sur la question européenne et sur la question de la crise. Il va passer environ 80% de son temps à l'international, donc il faut quelqu'un qui sache gérer
la majorité. Et c'est ce qu'il souhaite d'ailleurs d'une certaine manière.
Qu'il faut gérer la majorité parlementaire et qui sache gérer le pays pendant son absence. Et après, troisième point, c'est quelqu'un qui puisse impulser les réformes nécessaires et donc qui sache parler à la technostructure. Donc ces trois profils-là conduisent à certains profils et les noms qu'on cite.
Mais alors du coup, quand vous voyez la liste des premières ministres potentiels, Azoulay, Vautrin, j'ai entendu
Elisabeth Borne
qui tient la corde et j'ai même entendu parler de Fabienne Keller qui a été notamment maire de Strasbourg. Est-ce que alors il y a deux solutions, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. À chaque fois qu'on dit un nom, il y a moins de chances.
N'avait jamais été cité avant sa nomination, donc on va pas faire le jeu des pronostics on est quand même enregistré.
Est-ce que pour reprendre ce que dit William T, est-ce qu'il y a cette complémentarité dans les noms qu'on a évoqués dernièrement de ces femmes potentielles?
En partie oui, mais pour approfondir ce qu'a dit William, qui est très juste, il y a aussi une quatrième dimension dans le cycle particulier que l'on vit. On est dans un cycle électoral. Les élections législatives ont lieu dans quelques semaines. Et le choix du premier ou de la première ministre devra être aussi un signe envoyé à l'électorat macronien, à la majorité présidentielle, et créer ce qui est absolument cardinal dans une élection législative où traditionnellement on vote moins, voire beaucoup moins, 28 points de moins de, par exemple en 2007, c'est la question de la mobilisation. On se souvient, pour reprendre l'exemple de 2017, comme la nomination d'Édouard Philippe, qui, sa première phrase officielle quand il y a la transmission des pouvoirs, la passation des pouvoirs avec Bernard Cazeneuve, « Hey, je suis un homme de droite », ça a été un formidable levier pour faire venir un électorat de droite, y compris qui avait voté François Fillon, vers la majorité présidentielle. Donc là, c'est aussi cette dimension-là qu'il faut avoir en tête. Et c'est pour ça qu'il faut que ça vienne, parce que pendant ce temps-là, on va peut-être en parler, la gauche unie, la NUPES, a peut-être le vent en poupe, en tout cas plus médiatiquement que réellement, mais en tout cas, elle est là. Il faut, pour la majorité présidentielle, envoyer des signes à son électorat pour le mobiliser.
En tout cas, vous parliez, William T, de l'international qui va être très présent dans l'agenda d'Emmanuel Macron. Ça commence. Premier déplacement à l'étranger, à peine le nouveau quinquennat en place, alors qu'on n'a pas de gouvernement, on est encore sous l'ancien gouvernement de Jean Castex. Ce déplacement, quand même, à Abu Dhabi, qui a été observé, commenté. Comment est-ce que vous voyez ce déplacement avec ce président émirati qu'on avait vu il y a quelque temps lors de la signature d'un contrat d'armement pour l'achat d'avions Rafale? C'est un passage obligé parce que, et d'ailleurs le spécialiste du monde arabe, Qatar Abu Dhabi, nous faisait la liste des engagements français dans ce pays, et c'est très juste, ça va au-delà de l'armement, ça va au-delà de l'économie, il y a aussi le Louvre qui est là et qui... Qui prend une dimension éducative et culturelle. Je ne vais pas rentrer dans le bien et le mal, mais qu'est-ce que vous pensez de ce déplacement?
Alors, si on fait un jugement moral, évidemment, il y a des critiques qui peuvent être formulées à Emmanuel Macron, notamment sur la question des droits de l'homme, et qui peut être présente sur la question électorale dans la mesure où c'est plutôt la gauche qui a le vent en poupe et qui pourrait lui porter ce genre de critiques. Après, sur le point de vue clairement géopolitique, ce qu'on observe notamment depuis plusieurs années, notamment à peu près depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a un rôtissement des liens entre les pays du monde arabe, notamment du Golfe, avec la France, qui sont liés pour deux raisons. Premier point, c'est que les États-Unis, petit à petit, se mettent en retrait de cette partie-là du monde. Et donc, du coup, ces pays-là recherchent un autre père protecteur pour pouvoir les défendre et notamment assurer la question de l'approvisionnement en termes de pétrole, qui est très importante pour nous, notamment avec la crise énergétique. Le deuxième point, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'alliance qu'on a vue notamment après la crise à Daesh, en fait, des pays du sud du Golfe contre l'Iran. Il y a même Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, ça dépend, parce qu'ils jouent à un jeu qui est compliqué, mais plutôt ces pays-là.
Non, mais à chaque fois, on dit c'est un jeu compliqué, mais on ne sait pas de quoi il s'agit.
Oui, c'est un jeu compliqué dans la mesure où parfois, ils se mettent plutôt à équidistance entre les deux. Et donc, du coup, la France a retissé les liens, notamment avec l'Arabie Saoudite, avec, depuis l'arrivée au pouvoir de Ben Salman. Et ce que doit jouer Emmanuel Macron, notamment sur la question de la crise, parce que les deux événements sont liés avec la crise en Ukraine, c'est qu'en fait, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les pays occidentaux se sont ralliés derrière la position ukrainienne et derrière la position américaine et européenne. Mais par contre, les autres pays sont plutôt non alignés sur cette question. Et le rôle d'Emmanuel Macron, c'est d'amener de différents pays pour changer l'équation et notamment renforcer la question de la place et du pouvoir de la France dans le monde, notamment sur deux zones spécifiques, l'Asie, enfin le Moyen-Orient et l'Afrique.
Alors, ces sujets ne sont absolument pas anodins ou plus anodins pour les Français. Moi, je suis frappé de voir à quel point dans nos enquêtes, quand on fait parler les Français sur ce qu'ils ressentent de la vie politique, il cite de plus en plus ces sujets internationaux. L'Ukraine, bien sûr, a été un fort déterminant du vote pendant la campagne présidentielle. Elle a permis à Emmanuel Macron, au premier tour, de bénéficier de cet enjeu de continuité. On ne change pas de capitaine au milieu de la tempête. Et même cette visite dans l'Émirat d'Abu Dhabi, bon, ça ne va pas être noté de manière particulière. Ça fait partie aussi des usages, hein, le nombre de fois où un président de la République ou un ministre des étrangers est allé aux obsèques d'un émir, d'une personnalité du continent africain ou asiatique.
Seul, hein,
voilà,
Harris, Boris bien Johnson, sûr, oui, le roi oui, d'Espagne, que, le président oui, israélien.
Vous savez pourquoi, Pierre ? Parce que ce sont des moments où, au-delà du recueillement, on fait de la, de la politique, on tisse des liens.
Pas que, et, business aussi.
Il y a bien sûr du business. Et sur la question du business, les Français regardent ça. Il ne faut pas oublier que c'est sous le quinquennat Hollande que des Rafales ont été vendues pour la première fois et à plusieurs reprises. Et autant nous avons eu des présidents avant Emmanuel Macron, par Nicolas Sarkozy, je parle de François Hollande, très impopulaires, autant sur la question de la dimension internationale, les Français les ont quasiment toujours suivis.
Voilà donc pour le déplacement à Abu Dhabi. Je voudrais qu'on parle de la NUP ou la NUPES ou la Nouvelle Union Populaire. Je voyais Jean-Christophe Cambadélis sur CNews à l'instant qui parlait du tout sauf Mélenchon. On en parlait un petit peu avec Philippe Ballard du Rassemblement National il y a quelques minutes sur le fait qu'il y a quand même une grande partie de dissidents dans cette Nouvelle Union Populaire. Il y a quand même quelque chose d'assez franchement... bien arrangée dans cette NUP, c'est qu'elle a, j'allais dire, occupé l'espace médiatique pratiquement depuis le dimanche soir du second tour de la présidentielle.
Tout à fait. C'est vrai que je crois que Mélenchon a saturé l'espace médiatique. Il a réussi ce que la gauche n'avait pas fait pendant des années, c'est-à-dire s'unir. Alors, bien sûr, il y a des personnalités de gauche, notamment socialistes, écologistes, qui ne se retrouvent pas dans une union de la gauche avec hégémonie, pour ne pas dire plus, de la France insoumise. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire du peuple de gauche, qui a connu un troisième 21 avril, qui a connu une campagne horribiliste, même si en fin de campagne, il y a eu cette très belle dynamique en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui échoue que de 400 000 voix, il y a un nouveau récit qui a été imposé par Jean-Luc Mélenchon, qui est la gauche est de retour, la gauche peut gagner. Alors, on verra deux choses au cours de la campagne qui commence à peine. Premièrement, le nombre de dissidents. Il y en aura, mais pour l'instant, les candidatures ne sont pas encore figées. L'offre, si à partir, sera figée le 20 mai, si je ne me trompe pas. Et puis, deuxièmement, on verra la déperdition. Dans une enquête IFOP fiduciale pour LCI de la semaine dernière, on a une NUP qui arrive à 28%, ce qui est un score tout à fait honorable. Symboliquement, elle est en tête. Mais nous avons fait une autre hypothèse de configuration de premier tour où les forces de gauche partaient séparées, ça faisait 32% l'addition. On voit qu'il y a une déperdition. À qui va-t-elle profiter ? Peut-être à la majorité présidentielle et le tout sauf Mélenchon pourrait structurer toujours cette logique de mobilisation qui, je le répète, est absolument cardinale pour un scrutin législatif.
William Tay pour le think tank Le Millionnaire.
Sur ce qu'on observe, c'est qu'en fait, Mélenchon est celui qui joue le mieux depuis le second tour de l'élection présidentielle, dans la mesure où à chaque fois que vous avez une élection législative qui suit l'élection présidentielle, vous avez une démobilisation de tous les électorats. Et la question, c'est comment on fait pour remobiliser l'électorat en vue de l'élection législative. Et Mélenchon a redonné une utilité au vote avec sa phrase en disant « élisez-moi Premier ministre », c'est-à-dire qu'il a donné du sens à l'élection législative. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'il a réussi à faire l'union, mais non pas sur ce qu'on voyait habituellement à gauche, c'est-à-dire une thématique gauche plurielle ou gauche pacte de gouvernement, mais plutôt les autres forces de gauche, il se ralliait sous lui avec plutôt ses idées. C'est plutôt sa force politique qui a écrasé
en
celle des autres.
En imposant un programme, en disant c'est ça ou rien.
C'est ça ou rien. Et donc, du coup, les autres personnes se sont ralliées. Donc, en fait, sur les élections législatives, il a bien joué son coup. Et sur l'avenir de la gauche, c'est-à-dire que l'avenir de la gauche se construira autour de LFI, qui sera le groupe dominant. Et c'est la première fois que c'est plutôt l'extrême gauche qui soit dominante par rapport à la gauche de gouvernement. La difficulté qu'a Jean-Luc Mélenchon, et c'est l'inconnu qu'on aura vraisemblablement aux élections législatives, c'est qu'habituellement, quand la gauche était au second tour contre LREM, elle sortait traditionnellement plutôt gagnante avec des bons reports de voix au second tour. Mais est-ce que ce coup-ci, en raison de la présence et la surdominance de Jean-Luc Mélenchon, il n'y aura pas un vote barrage des électeurs de droite qui ne seront pas au second tour pour, en faveur d'Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon? Et c'est là la difficulté, en fait, où on ne sait pas. C'est difficile de faire des projections, c'est-à-dire qu'ils ont une force importante au premier tour, d'environ, je crois qu'ils arrivent en tête dans 190 circonscriptions, 200 circonscriptions. Mais est-ce qu'au second tour, ils ne vont pas se prendre, comme le Front National, une sorte de Front républicain contre la gauche?
Oui, c'est tout à fait plausible. On se souvient que la présidentielle, le premier tour, a été l'objet d'un triple vote utile des électeurs Zemmour vers Marine Le Pen, des électeurs Pécresse vers Emmanuel Macron et des électeurs de gauche vers Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que dans des circonscriptions de gauche plutôt modérées, est-ce qu'un candidat NUP, qui ne soit pas socialiste ou écologiste face à La République En Marche, voire face à la droite, si la droite arrive à se qualifier, pourra pâtir d'un vote utile, d'un tout sauf NUP, tout sauf Jean-Luc Mélenchon? Et c'est des choses qui sont probables. Maintenant, il faudra voir, bien sûr, le rapport de force de premier tour. C'est vrai qu'il y a une dynamique pour NUP. Alors, Jean-Luc Mélenchon a prononcé cette phrase absolument stupide d'un point de vue institutionnel, mais un coup de génie politique, hein, élisez-moi Premier ministre, ça a créé cette mobilisation.
Mais plus c'est gros, plus ça marche.
Oui, plus c'est gros, plus ça marche, mais on voit que ça a quand même marché, Pierre, compte tenu du spectacle de la gauche entre la pré-présidentielle et la pré-législative. Il y a un monde. Maintenant, un électeur socialiste qui voit le PS historique, pas seulement cantonné au vote Hidalgo, qui voit le PS disparaître dans 500 circonscriptions, voilà, quand ça va diffuser, est-ce que ça va être facile à avaler? Est-ce que ça peut accélérer cette recomposition politique? Et là, il y a un danger même pour la droite. Des électeurs de droite voteraient Renaissance, voteraient En Marche pour éviter NUP.
Sur ce que vous avez dit, William T., à propos de la façon dont le programme a été imposé par Jean-Luc Mélenchon, vous remarquerez qu'aujourd'hui, sur France 3, Jean-Luc Mélenchon est apparu et il a dit, puisque ça a été, je ne sais plus comment il a dit sa phrase, puisque ça a été décidé comme ça, puisque ça a été conclu comme ça, eh bien, il a été conclu que ça serait moi le Premier ministre. Je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire qu'on file la métaphore jusqu'au bout, en disant, il y a quand même un seul homme qui a décidé ça, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Ouais. Mais c'est un peu le... Jean-Luc Mélenchon poursuit le paradoxe de François Mitterrand dans les années 60-70. François Mitterrand combattait le gaullisme et combattait la Ve République sur le style en attaquant le bonapartisme, le césarisme. Et Jean-Luc Mélenchon, pareil, attaque la Ve République, le bonapartisme d'Emmanuel Macron ou même le bonapartisme à l'époque de Sarkozy et se comporte exactement comme un leader bonapartiste et un leader césariste. C'est tout le paradoxe en fait, des hommes de gauche, c'est qu'ils attaquent les institutions de la Ve, mais se plaisent dans les institutions de la Ve, attaquent le style bonapartiste césariste et adoptent le style bonapartiste
césariste. Comme dirait Charles Villeneuve, et il le dit très très bien, et c'est tout à fait juste ce qu'il dit. Il dit il se comporte comme Danton alors qu'en réalité c'est Robespierre.
Oui, c'est pas faux. D'ailleurs, il y a une admiration du Parti de la France Insoumise pour Saint-Just et pour Robespierre. La différence quand même notable entre Jean-Luc Mélenchon et François Mitterrand, c'est que François Mitterrand, en 1974, alors qu'il échoue que de 600 000 voix, il accepte complètement sa défaite et il ne remet aucunement en cause, alors que le mandat va être très tendu, la victoire de Valérie Giscard d'Estaing. De la même manière, Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste français, pourtant un anti-Giscard de référence, n'a jamais remis en cause la légitimité du pouvoir. C'est en ça qu'on peut qualifier de dangereux le jeu de Jean-Luc Mélenchon, mais ça crée de la mobilisation et ça installe, ça impose un nouveau récit.
Je le disais tout à l'heure à Philippe Ballard, mais c'est une réflexion qu'on a eue dans les grandes voix et puis il y a d'autres observateurs qui ont cette réflexion également, c'est qu'on en oublierait presque que c'est Marine Le Pen qui est arrivée au second tour. On en oublierait presque que c'est Marine Le Pen qui est arrivée deuxième au premier tour
Les Français ne l'oublient pas, parce que quand on les interroge la semaine dernière sur qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, Marine Le Pen arrive en tête. Mais elle est au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon. Mais n'oublions pas, ce n'est pas correctement nouveau. En 2017, après les élections législatives qui avaient été meilleures pour la France Insoumise que pour le Rassemblement National, c'était Jean-Luc Mélenchon qui incarnait le mieux l'opposition. Oui. Et le tournant, Pierre, c'est les Gilets jaunes, ou après les Gilets jaunes, c'est de nouveau Marine Le Pen qui apparaît comme
la
meilleure opposante.
En attendant, elle a disparu. Enfin, je veux dire, quoi qu'on m'en dise, quoi que me dise Philippe Ballard tout à l'heure pendant l'interview, je veux dire, Effectivement, et d'ailleurs, il en convient. Il a dit, vous savez, la campagne a été dure, elle se repose, etc. Et là, elle refait quand même. Ouais, mais en attendant, t'as Mélenchon qui est là. Il est arrivé dès le dimanche soir en disant, attendez, on va faire une grande union populaire. Enfin, pardon, mais c'est...
Bah, elle a rendu quasiment son vote inutile à travers deux déclarations. C'est que Jordan Bardella a dit que Marine Le Pen n'avait aucune chance d'être élue Premier ministre. Donc maintenant, il faut demander aux électeurs du Rassemblement national de se mobiliser en juin pour aller voter pour des députés Rassemblement national. Mais il faut se demander pourquoi est-ce qu'ils voteraient des députés Rassemblement national, dans la mesure où même le chef du Rassemblement national dit qu'il n'y a aucune perspective de victoire. Et deuxième point, elle disparaît. Mais ça, c'est comme en 2017. C'est-à-dire qu'elle laisse petit à petit le chemin de l'opposition à mener entre Jean-Luc Mélenchon. Il y a une différence notable entre maintenant et 2017. Oui. C'est que Jean-Luc Mélenchon peut incarner... Il peut faire entre 150 et 200 députés. Alors que là,
elle joue sur l'honnêteté aussi, Marine Le Pen, en disant bah oui, il n'y a pas de chance que je sois Premier ministre.
Oui, mais c'est comment
elle
vous construisez.
Elle a raison. Institutionnellement,
bien sûr. Constitutionnellement.
Oui, mais il y a une différence avec les années précédentes, que moi je trouve sur les élections législatives. C'est la volonté et le souhait, à la différence des autres élections, des Français d'avoir une cohabitation. D'habitude, quand on pose la question aux Français, dès que Dabi pose la question habituellement, les Français ne veulent pas de cohabitation à suite des élections d'un président de la République.
C'est tricoté puis détricoté, donc évidemment.
C'est pas l'objectif. Alors que là, il y a plutôt une majorité de Français qui veulent une cohabitation. Dans la mesure où Emmanuel Macron a été un peu élu par défaut contre Mélenchon et contre Le Pen, il y avait une utilité aux élections législatives et donc du vote aux élections législatives.
Merci à vous deux. Merci William Tay. Merci Frédéric Dabi. Dans un instant, direction Rome. Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, a assisté à la canonisation de Charles de Foucault, l'homme aux trois vies, il nous en parle. Et puis dans Panorama à 19h30, votre nouveau rendez-vous sur la société, sur vos habitudes, vos craintes, vos envies, direction les vacances. Les vacances façon 2022. Nos habitudes ont changé après le confinement. Les professionnels du voyage nous en parlent. Et puis dans 3 minutes, c'est le journal de 19h. Bien sûr, à tout de suite.
Plus.
Europe Soir. Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Merci de nous suivre, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et pour l'heure c'est le journal de Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Puisqu'il est 19h.
La Finlande et la Suède aux portes de l'OTAN. Les deux pays, sous la pression de l'invasion en Ukraine, se rapprochent de l'Alliance Atlantique. Une candidature historique qui met un terme à la neutralité militaire d'Helsinki.
Jean Castex vit ses dernières heures à Matignon. Qui lui succédera? On devrait le savoir dans les jours qui viennent. Mais en attendant, les rumeurs vont sur l'idée d'une femme au poste de Premier ministre.
Depuis 2 ans, il couvrait nos visages dans les transports pour éviter une propagation du Covid-19. À compter de demain, le port du masque n'est plus obligatoire dans le bus, métro, train et avion. Pas sûr pour autant que tout le monde le retire.
Qui sera sacré meilleur joueur de l'année? Réponse ce soir lors de ce qu'on pourrait appeler les Césars du foot. Si le résultat ne semble pas être un suspense, la soirée promet d'être belle. Nous irons faire un tour au pavillon Gabriel à Paris. Dans ce journal, la tendance météo, Valérie Darmon.
Des orages localisés dans l'Est demain, ponctuellement forts. Retour d'un temps plus calme par l'Ouest et toujours de la chaleur. En attendant, jusqu'à 22h ce soir, ça tonne sur les pays de la Loire jusqu'en Manche.
Merci Valérie. Météo complète en fin de journal. C'est la conséquence directe de l'invasion russe en Ukraine. La Suède et la Finlande font un pas de plus pour adhérer à l'OTAN.
Stockholm donne ce soir son feu vert à une candidature, ce qui ouvre la voie à une demande d'adhésion par le gouvernement suédois. La Suède dans les traces de la Finlande qui partage 1300 km de frontières avec la Russie, mais également un passé difficile. Helsinki a formellement annoncé aujourd'hui sa volonté de rejoindre l'Alliance Atlantique. Bonsoir Caroline Baudry, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Helsinki.
Bonsoir Sophie, bonsoir à tous.
Cette annonce officielle vient mettre fin à 75 ans de neutralité avec la Finlande.
Oui, c'est un jour historique, a martelé le tandem exécutif, le président Sauli Niinisto et la première ministre Sanna Marin, dans une salle du palais présidentiel sur les quais de la capitale. Le pays de 5 millions d'habitants souhaite, je cite, « maximiser sa sécurité ».
Savoir que votre pays est en sécurité pour y vivre, y construire, y travailler, cela a un impact sur tous vos comportements.
J'ai confiance en le fait que le Parlement débattra de cette décision historique avec détermination et responsabilité.
Le Parlement examinera demain la candidature avant un vote. Les 200 élus y sont quasiment unanimes sur une adhésion. Depuis l'invasion de l'Ukraine, le revirement de l'opinion publique est ici spectaculaire. Près de 80% des Finlandais souhaitent se protéger du géant russe, comme Sixten, croisé sur le marché d'Helsinki face au palais.
Avant ça, je pensais qu'on pouvait s'arranger avec les Russes. J'ai changé d'avis le 24 février. Ils vont certainement réagir. Il pourrait y avoir des cyberattaques. Ils ont déjà coupé la livraison d'électricité, mais ça n'a pas de conséquences ici.
Le patron de l'OTAN souhaite accélérer le processus d'adhésion qui peut prendre plusieurs mois. En attendant, il se dit prêt à renforcer la présence de l'alliance militaire dans le pays.
Caroline Baudry en direct d'Helsinki pour Europe 1. Et les États-Unis, par la voix du chef de la diplomatie, Anthony Blinken, ont indiqué soutenir fortement les adhésions de la Finlande et de la Suède. La Russie, elle, qualifie cette décision d'erreur et menace de représailles technico-militaires.
En France, l'actualité, c'est la nomination du nouveau gouvernement qui est attendue à partir de demain.
Oui, ce n'est plus qu'une question d'heure. Jean Castex s'apprête à présenter sa démission à Emmanuel Macron. Alors, qui pour lui succéder à Matignon ? Les spéculations vont bon train et elles sont largement alimentées par l'idée d'une femme Premier ministre, Arthur Delaborde.
Oui, et la patronne de la métropole de Reims, Catherine Vautrin, semble désormais favorite. Certains vantent l'expérience et la maîtrise du Parlement de cette ancienne députée Les Républicains et ex-ministre de Jacques Chirac. Toutefois, son profil est aussi critiqué par certains cadres de la Macronie. Il lui reproche son absence de sensibilité écologique et son opposition au mariage pour tous en 2013. Ainsi, d'autres noms continuent de circuler, à commencer par celui d'Elisabeth Borne. La ministre du Travail est pressentie à Matignon depuis déjà plusieurs mois. D'autres paris sur la sénatrice UDI du Nord, Valérie Létard, cette élue locale centriste, fut notamment responsable des négociations sur le climat dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Et puis il y a aussi des profils plus marqués à gauche, comme Marisol Touraine, qui a occupé le poste de ministre de la Santé sous François Hollande, ou Audrey Azoulay, l'actuelle directrice générale de l'UNESCO, fut en charge de la culture pendant le quinquennat du président socialiste.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Prendre les transports, le visage à l'air libre, ça sera possible dès demain.
Le port du masque ne sera plus obligatoire. Dans le bus, le métro, le train et l'avion, on devrait donc voir plus de visages dans les transports, Guillaume Dominguez.
Eh bien non, justement, beaucoup sont très frileux à l'idée de ne plus porter de masque du tout dans les transports. Écoutez.
Moi, je vais continuer à le porter encore quelques temps pour juste me protéger un tout petit peu.
Moi, je préfère porter le masque dans les transports. Ouais.
Moi, j'ai un petit peu la frousse, alors du coup, je vais continuer à le porter pendant un certain temps.
Je continuerai à porter le masque quand c'est les heures de pointe où il y a toujours un doute, quoi.
Un doute qui se traduit toujours par plus de 36 000 cas positifs par jour. Alors c'est un chiffre à relativiser, il est en baisse continue depuis maintenant plus d'un mois. Et en France, près de 80% de la population est totalement vaccinée. Pour les médecins d'ailleurs, la mesure est plutôt cohérente, mais elle est soumise à conditions. Écoutez l'avis de l'infectiologue Antoine Flao.
Elle est cohérente, mais si jamais ça remonte, et ça peut remonter rapidement malheureusement, comme on le voit au Portugal, mais aussi dans d'autres endroits, aux États-Unis aussi, il faut à ce moment-là être prêt à malheureusement réinstaurer ce type de mesure.
On risque donc d'attendre encore un peu avant de voir des sourires à nouveau dans les transports.
Guillaume Dominguez, notez que le port du masque reste obligatoire en revanche dans les hôpitaux et les EHPAD.
Aux États-Unis, le choc et la colère dans la ville de Buffalo après une tuerie raciste hier soir.
Une fusillade décrite comme un acte de terrorisme intérieur par les autorités américaines. Un suprémaciste blanc de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché dans l'État de New York. Au moins 10 personnes ont été tuées, dont une majorité d'Afro-Américains. C'est la tuerie la plus meurtrière de l'année outre-Atlantique. Nicolas Pinot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. 24 heures après le drame, c'est toujours l'émotion dans le pays.
Oui, le tireur avait minutieusement préparé son attaque. Lourdement armé et équipé de protections similaires à celles des forces spéciales, il commence à tirer dès son arrivée en voiture sur le parking de ce supermarché fréquenté majoritairement par des Noirs. Sur la vidéo de son crime qu'il a postée en direct sur Twitch, l'assaillant abat méthodiquement ses victimes avant de recharger son arme. Une efficacité diabolique pour des exécutions de type militaire, selon Kelly Hochul, la gouverneure de l'État de New York.
C'est une exécution de type militaire contre des gens qui voulaient simplement faire leurs courses dans leur quartier. Ça nous touche dans nos cœurs de savoir qu'un tel mal existe.
Peyton Gendron, 18 ans, a été arrêté. Il a été inculpé pour meurtre, mais plaide non coupable. Le FBI a ouvert une enquête pour crime raciste. Dans un manifeste de 180 pages posté sur Internet, le tueur justifie son acte par le déclin de la population blanche. Il fait référence à la théorie du grand remplacement et se décrit comme fasciste, suprémaciste blanc et antisémite.
Nicolas Pineau, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les habitants de Buffalo ont rendu hommage aux victimes aujourd'hui et ce soir, le président américain Joe Biden affirme que la haine demeure une tache sur l'âme de l'Amérique.
C'est un événement d'importance qui a lieu aujourd'hui au Vatican. Le pape François a canonisé 10 figures de l'Église.
Et parmi eux, 3 religieux français, dont l'ermite du désert Charles de Foucault, à qui 2 miracles ont été attribués. Il avait été béatifié en 2005 par Benoît XVI. Alors, qui était cet explorateur à la destinée inattendue? Son portrait avec Céline Géraud.
Charles de Foucault voit le jour en 1858 à Strasbourg. Orphelin à 5 ans, le jeune vicomte est élevé par son grand-père et à l'adolescence, il est agnostique, frivole, indiscipliné. Il s'engage alors dans l'armée, sans conviction. Et après avoir dilapidé l'héritage familial, en fête raffinée et libertine, il démissionne et part explorer le Maroc. Ce voyage va le transformer. À son retour, le dandy provocateur devient ascète et se convertit. Tout juste ordonné prêtre, il décide de partir s'installer à Tamanrasset, au cœur du Sahara algérien. Commence alors sa troisième vie, celle de missionnaire auprès du peuple Touareg. Pendant 11 ans, il tente de fonder une fraternité, mais il ne convertit personne. Il n'est que le marabout chrétien, féru de poésie et de spiritualité. Sa fin est tragique. Le 1er décembre 1916, pris dans une émeute entre tribus, il est assassiné à 58 ans. Ce n'est qu'après sa mort que Charles de Foucault devient une référence et en 1933, la première communauté monastique qui l'a inspiré voit enfin le jour au Sahara.
Céline Géraud.
Et nous reviendrons sur cette canonisation de Charles de Foucault avec mon invité, l'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget, qui justement est à Rome juste après ce journal. On regarde dans le ciel à présent, où nous attend un très beau spectacle nuit prochaine.
Oui Pierre, c'est une lune rouge, c'est le résultat d'une éclipse lunaire qui devrait durer quelques heures et qui sera visible partout en France à condition de se lever tôt. Ce sera entre 4h30 et 5h30 du matin. Olivier Lasvergnas, c'est le président de l'Association française d'astronomie. Il nous donne ses conseils pour profiter au maximum du spectacle.
L'éclipse de lune, elle se produit quand la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune, c'est-à-dire qu'en fait, son ombre se projette sur la Lune, quoi. Quand elle est complètement dans le noir, elle est encore un peu éclairée par la lumière du Soleil qui est diffusée par l'atmosphère terrestre. Et ça donne une faible lumière, très très rouge, mais qui est très très belle à voir. Ce qu'il y a de bien, c'est de s'installer confortablement, parce que c'est un phénomène qui est dans la durée, hein, et le phénomène s'observe, ça prend la progression de l'ombre, ça prend à peu près une heure. Il faut se mettre dans un endroit où on est très très dégagé vers le sud-ouest. On peut même l'observer avec des petites jumelles, si on a des jumelles, voire même évidemment une petite lunette. Et même si c'est très très beau à l'œil nu, ça peut se photographier très facilement.
Olivier Lasvergnas avec Nina Droff pour Europe 1.
Et on passe au sport.
Tous les sports et sur Europe 1.
Et ce sont ce soir ce qu'on pourrait appeler les Césars du football.
Oui, les célèbres trophées UNFP qui récompensent tous les ans les acteurs du milieu du football. La cérémonie débute à 21h au pavillon Gabriel à Paris. On retrouve tout de suite sur place Cyril de la Morinerie. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
La cérémonie est dans moins de 2 heures et il n'y a pas vraiment de suspense quant au choix du meilleur joueur.
Oh, il n'y a pas de suspense puisque autour du tapis rouge, eh bien, il y a beaucoup de supporters qui attendent une voiture arrivée, alors on ne sait pas encore à quelle heure, une voiture dans laquelle se trouve Kylian Mbappé parce qu'il a annoncé qu'il n'irait pas en stage au Qatar avec le Paris Saint-Germain. Il tient à être ici ce soir, il fait partie des nominés et vu sa saison, une saison incroyable où il est pour le moment meilleur buteur et meilleur passeur, s'il termine meilleur buteur et meilleur passeur, ce serait une première dans l'histoire de la Ligue 1. Mais on ne voit pas comment ce trophée pourra lui échapper. D'ailleurs, il l'avait remporté la saison dernière et devrait le remporter ce soir un peu avant 23h, une cérémonie que nous allons suivre en direct sur Europe 1 dans l'émission de Lionel Rosso. Et on attend évidemment les mots, les premiers mots de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va enfin se prononcer sur son avenir et dire s'il va partir du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il va rejoindre le Real Madrid? Eh bien, vous le saurez en écoutant Europe 1 Sport. Il y aura aussi d'autres trophées qui seront décernés, notamment le trophée de meilleur joueur à l'étranger. Et là aussi, je peux vous dire que, sauf surprise, ce sera sans doute Karim Benzema.
Eh bien, on va suivre ça avec attention. Merci Cyril de la Morinerie au pavillon. Gabriel.
Voilà, on n'a plus le choix de vous écouter, hein, Lionel Rosso.
Absolument, mais c'est une belle soirée. Il n'y aura pas que cela, même si Cyril sera très présent dans l'émission. Bonsoir, en effet, les trophées UNFP avec
la très attendue déclaration de Kylian Mbappé, sans doute plus proche de 23h que de 20h, ça c'est une certitude. Et puis, le meilleur gardien, le meilleur entraîneur, une belle cérémonie pour ces Oscars ou ces Césars du foot français. Mais nous évoquerons aussi l'actualité de la Ligue 1 après le multiplex d'hier des enseignements. C'était l'avant-dernière journée et on se demandera si Saint-Etienne peut encore se maintenir ou comment Bordeaux va faire pour rebondir après cette descente en Ligue 2. Car si mathématiquement ce n'est pas fait, les Girondins de Bordeaux doivent gagner par 12 buts d'écart lors de la dernière journée, la semaine prochaine, donc c'est totalement impossible. Bordeaux ira en Ligue 2, on sera avec Alain Giresse, notamment bordelais symbolique et historique de ce club.
Voilà, une belle signature, merci Lionel Rousseau. Et à tout à l'heure, il y avait deux finales de tennis à Rome aujourd'hui.
Oui, Novak Djokovic confirme son retour en grande forme. Le Serbe est sacré au Masters 1000, donc à Rome. Il a battu le Grec Tsefanos Tsitsipas en 2-7, 6-0, 7-6. Et puis chez les dames, la Polonaise Iga Świątek s'inscrit dans son statut de favorite pour Roland Garros qui démarre la semaine prochaine. Cinquième tournoi consécutif remporté pour la numéro 1 mondiale qui a battu la Tunisienne 11 Jabeur 6-2, 6-2.
Merci Sophie Tussaud pour le journal de 19h. On passe à la météo et on scrute le ciel, Valérie Damon, parce que pour le moment le ciel tonne toujours dans le nord-ouest.
Et oui, c'est très couvert hein, jusque sur les Pays de la Loire, malheureusement. Alors absolument, les vigilances orange entre Normandie et Sarthe seront levées vers 22h. Si le ciel tonne sur la région parisienne, c'est à partir de maintenant et quelques orages éclatent aussi du sud-ouest aux frontières nord. Demain, la perturbation arrivée par l'ouest s'évacue par l'Allemagne et la Suisse. Elle apportera des averses et des orages dans l'est. Ailleurs, le soleil s'imposera de nouveau rapidement, notamment au sud de la Garonne. Après la dissipation des grisailles du matin, où vos thermomètres afficheront aux heures les plus chaudes 28 à 30, donc l'après-midi, et près de la Méditerranée, où le temps reste calme, en dépit de quelques nuages bas en Languedoc-Roussillon. Du Massif central aux Alpes, à la Bourgogne, au Grand Est, là vous passez la journée sous un ciel lourd et orageux. C'est la perturbation qui finit de s'évacuer par les frontières de l'Est. Et puis dans le Nord et l'Ouest, bien arrosé donc ce dimanche, c'est coussi-coussa, entre nuages parfois menaçants et éclaircis, et le risque d'averse qui reste un tout petit peu plus marqué entre la Bretagne et la Normandie.
Merci Valérie Darmon, 19h15, direction le ciel de Rome. Dans un petit instant, on rejoint Monseigneur Bouget qui va nous parler de ce Charles de Foucault, méconnu peut-être pour vous. Vous saurez tout dans un instant, tout de suite.
Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneuve.
Avec à 19h17 une interview qui nous intéresse à des sujets divers et variés. Et aujourd'hui, nous partons à Rome rejoindre l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget. Bonsoir.
Bonsoir Pierre de Villeneuve et bonsoir à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous en direct dans les rues de Rome. Vous avez assisté, non pas dans les rues, mais dans l'église qui a canonisé ses 10 saints. C'est un événement au Vatican. Parlez-nous de Charles de Foucault, l'homme non pas aux mille vies, mais en tout cas aux trois vies, puisque, comme l'a très bien résumé Céline Géraud dans le journal, il a été d'abord cet aristocrate soldat, puisque c'était effectivement une vocation assez naturelle dans ce genre de famille, puis ensuite le dandy qui dilapide toute la fortune familiale, et puis finalement sa vie, j'allais dire monastique, sa vie de saint, il l'a fait... En dernier, qu'est-ce qu'il y a de fascinant chez Charles de Foucault, Mathieu Rouget ?
Alors Charles de Foucault qui a été donc canonisé sur le parvis de Saint-Pierre de Rome ce matin avec des dizaines de milliers de fidèles, dont beaucoup de Français, notamment des militaires français et beaucoup d'autres, parce que c'est la première fois qu'un saint syrien est proclamé saint dans l'histoire de l'école militaire française. Il me semble que le père de Foucault peut rejoindre beaucoup notre époque. Parce que c'est vrai qu'il a eu une vie de militaire, une vie de dandy, mais c'est surtout un jeune dont la jeunesse a été très compliquée, dans un contexte familial éclaté, comme le connaissent beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et d'emblée, sa vie a été habitée par une quête compliquée et douloureuse, jusqu'au jour où il a fait une expérience spirituelle décisive, à partir de laquelle sa vie a été éclairée et renouvelée. Vous savez, le père de Foucault, pendant une partie de sa jeunesse, votre portrait tout à l'heure l'a très bien montré, il était agnostique, il n'avait pas d'idée finalement définitive ou profonde sur le sens de la vie, et il faisait cette prière « Seigneur, si tu existes, permets que je te connaisse ». Et je pense que cette prière, elle rejoint le cœur de nos contemporains.
Vous voulez dire qu'il y a sans doute en France des Charles de Foucault qui n'en sont pas forcément conscients?
Ah, sûrement, oui. Je pense que, vous savez, les itinéraires de sainteté sont faits pour, pas simplement exalter le passé, mais rejoindre les attentes du présent. Et je suis très touché de la manière dont, de façon très large, la figure de Charles Foucault rejoint les cœurs aujourd'hui. Oui, je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de nos contemporains qui grandissent dans des contextes très difficiles et qui ont une grande quête de sens, de profondeur, de vie spirituelle. Et le chemin ouvert par le cœur de Foucault a de quoi leur parler.
Ouais, et ça, c'est intéressant, Mathieu Rouget, parce que nous vivons également dans une époque où j'ai pas envie de dire que la religion est malmenée, mais elle est opposée à ce qu'en France on nomme laïcité. Elle est également, j'allais dire, galvaudée, minimisée, critiquée, parfois caricaturée. Comment est-ce qu'on arrive, j'allais dire, à s'en sortir, à essayer de trouver un itinéraire qui peut être un itinéraire tout simplement singulier de chacun?
Alors, nous sommes effectivement dans une époque de grande remise en cause. Une saine laïcité n'empêche pas l'expression de la foi, comme l'a d'ailleurs montré la présence ce matin sur le parvis de Saint-Pierre de Rome du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais c'est vrai que nous sommes dans une période compliquée pour la foi, pour toutes sortes de raisons, mais toutes ces complications ne viennent pas étouffer la soif spirituelle de chacun. Et au fond du cœur humain, quelles que soient les histoires et les traditions, il y a une quête spirituelle. Et le père de Foucault a montré comment cette quête pouvait aboutir dans un choix de simplicité, de fraternité et aussi d'attachement au Christ.
Mais c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que vous, dans votre diocèse, en plus, vous avez l'expérience, Mathieu Rouget, de voir ces jeunes qui... Vous savez, il y a cette quête, peut-être effectivement cette lumière qui naît en certains jeunes, et puis ils se disent, ben non, en fait, j'y vais pas parce que c'est ringard, vous comprenez, il y a la religion, ben non, c'est pas forcément ce qui va me porter dans la vie. Comment est-ce qu'on fait pour, je veux dire, s'absoudre de ces critiques qui, en l'occurrence, sont inutiles et parfois même dévastatrices?
Eh bien, en fait, ces critiques, je pense qu'elles passent un peu à côté de la profondeur des choses. Elles sont un peu superficielles. L'important, c'est que chacun se demande ce qui donne vraiment du sens à sa vie, ce qui est susceptible de donner une joie durable dans l'existence. Et cette quête, elle est longue, elle est profonde, elle peut être parfois dramatique. Et c'est ce qu'a vécu le père de Foucault. Et vous savez, moi j'étais très touché ce matin de voir, alors certes c'était des gens plutôt motivés qui étaient venus pour la canonisation, mais parmi les 10 saints qui ont été canonisés, dès qu'on nommait le père de Foucault, il y avait une vague d'enthousiasme et d'applaudissements et d'acclamations qui jaillissaient de la foule, manifestant qu'en France, malgré toutes les difficultés que nous traversons, il y a une belle vitalité des croyants et que la figure du père de Foucault peut beaucoup toucher des personnes extrêmement variées.
Vous avez noté tout à l'heure effectivement que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était en délégation pour le gouvernement à cette série de canonisations. Ce devait être Jean Castex, le Premier ministre. Hier, ici même, je recevais Alexis Corbière de la France Insoumise, qui, comme vous le savez, et puis la vie politique ne vous est pas étrangère, puisque rappelons, Mathieu Rouget, que vous avez été l'évêque des parlementaires. Comment est-ce que vous appréciez cette déclaration que m'a faite Alexis Corbière hier, ici même, dans ce studio, en disant que, ben, en fait, le gouvernement ne devrait pas se mêler au nom de la laïcité, justement, de ce genre d'événement?
Vous savez, il y a un peu deux laïcités. Il y a une laïcité de dialogue, une laïcité de combat. La laïcité qui triomphe habituellement et heureusement dans notre pays, c'est une laïcité de dialogue. Et il y a une dimension de courtoisie et de justesse républicaine et démocratique de pouvoir accompagner un événement très important pour une partie des citoyens. Et je pense que Gérald Darmanin l'a fait de manière tout à fait ajustée. Et puis aussi, je pense que un politique, quel que soit son propre parcours, peut être touché par ce que s'il se vit dans les différentes grandes religions. Et le ministre de l'Intérieur a dit qu'il avait été touché non seulement par la ferveur qui entoure Charles de Foucault, mais aussi les deux autres saints, Marie Rivier et César de Bus, français, qui ont été canonisés. Et puis dans les autres saints, il y a quelques figures tout à fait remarquables. Je pense en particulier à un spirituel, un père carme néerlandais, Titus Brandsma, qui est mort en déportation à Dachau en 1942, après avoir défendu les Juifs de manière exemplaire. Et ce genre de témoignage de sainteté, il dépasse aussi les limites d'une trop étroite laïcité.
Et alors justement, trop étroite laïcité, même si c'est peut-être pas forcément directement votre rôle, mais cette laïcité de combat, comme vous l'appelez, il faut la combattre, ou est-ce que l'indifférence est la plus grande forme de mépris, comme on dit ?
Ah non, de toute façon, un chrétien ne doit jamais mépriser qui que ce soit, et il faut toujours accueillir les questions, les objections, et simplement dialoguer, avancer, ne pas s'enfermer dans des postures, mais chercher à mieux se comprendre pour mieux se respecter. Je pense que dans les périodes de grande fracturation de notre société, ouais, et qui est un grand sujet pour le gouvernement qui sera nommé dans les heures qui viennent, vous l'évoquez dans votre journal, tout ce qui peut contribuer à la fraternité doit être cultivé. Et donc moi, je suis tout à fait prêt à échanger, par exemple, avec M. Corbière à ce sujet.
On va organiser ça, Mathieu Rouget. Ça risque d'être assez
avec
impressionnant.
Avec joie, mais le père de Foucault était l'homme de la fraternité universelle, et donc c'est vraiment ce qui habite en tout cas le cœur d'un chrétien et d'un évêque comme moi.
Dernière chose, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de comment ça se passe, la canonisation, qu'est-ce que ça représente ?
Alors en fait, c'est un long processus de discernement, de travail historique, et puis aussi il y a des miracles qui ont pu se produire et qui sont analysés de très près. Et puis, après des années de travail, d'analyse, le pape, conseillé par ses équipes, décide de célébrer une canonisation. Et au cours d'une grande messe solennelle, magnifique, on doit pouvoir d'ailleurs voir celle de ce matin en replay sur les réseaux sociaux, eh bien, le pape, sobrement, mais solennellement, proclame qu'ils sont désormais susceptibles d'être désignés comme, oui, des saints et d'être pris par les fidèles du monde entier comme des modèles, des exemples, des accompagnateurs sur le chemin de la recherche spirituelle et de la vie chrétienne.
Pardonnez-moi de cette question candide, mais comment est-ce qu'on vérifie qu'il y a bien eu un miracle ?
Alors, il y a un très 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 gros travail d'analyse scientifique avec des médecins non-croyants pour essayer de voir s'il y a vraiment une guérison inexpliquée. Et l'histoire de Charles, qui a été guéri par l'intercession du père de Foucault, est tout à fait étonnante. C'est un charpentier qui était présent ce matin, qui n'est pas lui-même croyant, je crois, mais il se trouve qu'il a fait une chute terrible, qu'il a été traversé de part en part par une poutre de bois, et que, alors que tous ceux qui l'entouraient priaient Charles de Foucault, il s'est sorti de ce drame qui aurait même dû mettre fin à sa vie.
Merci Mathieu Rouget, merci Monseigneur d'avoir été en direct de Rome.
Merci à vous.
Pour nous éclairer sur justement tout ce process de canonisation et sur la personnalité intrinsèque de Charles de Foucault. Dans un instant, Panorama, votre nouveau rendez-vous sur la société, sur vos habitudes, sur vos craintes, sur vos angoisses, sur vos envies. Et on parlera des vacances façon 2022. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Voyage, voyage.
Voici Panorama avec l'aide de Desireless et son tube Voyage, Voyage. Panorama, c'est un nouveau rendez-vous ici sur Europe 1 à 19h30 le samedi et le dimanche. Une demi-heure de débat, plutôt de discussion autour de vos envies, de vos découvertes, de vos angoisses, l'art, la culture, les évasions en tout genre, mais aussi questions sociétales. Tout sera passé en revue dans cette demi-heure qui clôt notre session d'information. Avec des températures avoisinant aujourd'hui les 30 degrés partout en France, c'était difficile de ne pas se projeter sur l'été prochain et donc sur vos voyages. Sur vos vacances, les Français ont changé leurs habitudes de voyage. On en parle avec Alain de Mendonça. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du groupe Caravelle Promo Vacances et Fram. Bonjour au sociologue Jean Viard, directeur de recherche au CNRS et au CVIPOF. Et bonjour également à Thierry Orsoni, directeur de la communication du Club Med, car c'est un marqueur en France, même si on le sait, c'est un positionnement haut de gamme. Alors regardons quand même quelques chiffres.
Bonjour.
Bonjour Thierry Orsoni, merci d'être avec nous. Selon une étude YouGov 38% des Français vont aller au-delà des frontières. C'était 13% en 2021. Le budget a reculé, 1 935 € cette année pour l'été 2022 contre 2 089 € en 2021. Clairement, cet été, ça change. Alain demande ça.
Clairement, les Français ont envie de partir en vacances. Ils sortent d'années très difficiles. Le Covid qui a duré 2 ans. Alors, on a fait un peu le cache-cache. Il arrive, il repart, il arrive, il repart. On a été assigné à résidence. On a tendance à oublier, mais on a été obligé de rester chez nous.
Ah ben moi, je n'ai pas oublié. J'ai même présenté le journal chez moi, je vais vous dire. Quand on présente le journal de votre chambre à coucher, je peux vous dire que c'est un peu... c'est un marqueur, comme on dit.
Ça vous a marqué, ça a marqué beaucoup
de
Français.
Bon, j'arrête de parler de moi. D'accord.
Aujourd'hui, les Français, ils veulent se faire plaisir. Ils veulent retrouver une liberté fondamentale qui est le droit de voyager.
Thierry Orsoni, sur les habitudes de voyage, sur l'été 2022, changement, pas changement par rapport aux années précédentes?
Bah écoutez, par rapport aux années immédiates, comme cela vient d'être dit, effectivement, il y a cette forte envie de voyager, forte envie de se retrouver en famille, en dehors de la maison et en dehors des endroits citadins et urbains. C'est ce qui explique notamment, je pense, le très très fort engouement pour la montagne d'été que tous les observateurs doivent connaître. Et que l'on observe particulièrement au club où on a cette année renforcé encore par rapport à 2019 par exemple le nombre de resorts, de villages qu'on ouvre à la montagne cet été.
Jean Viard, qu'est-ce que vous constatez vous sur ces derniers mois et sur les projections pour l'été qui arrive?
Si vous voulez, ce qui vient d'être dit, je suis d'accord, donc j'y reviens pas. Je pense qu'effectivement, il y a un désir de voyage, y compris parce qu'on ne sait pas si la pandémie va redémarrer. J'ai tendance à penser, on se dit profitons-en tout de suite, c'est déjà plus prudent pour le futur. Et puis l'autre chose qu'il faut dire, c'est que si vous voulez, on voit bien en ce moment qu'il y a des inquiétudes économiques, bien sûr, etc. Mais au fond, les gens qui partent en vacances, c'est pas les premiers que ça concerne, parce que l'été, il va y avoir un peu plus de 50% des gens qui vont partir cet été, peut-être 60%. Donc si vous voulez, ceux qui sont les plus en difficulté, en fait, ils vont pas partir. Donc, je dirais que si vous voulez, c'est les revenus moyens et supérieurs qui partent en vacances. Il faut jamais l'oublier. Donc, ça a cet effet, effectivement, d'être peu touché, je dirais, par l'inflation pour l'instant. Même si les gens vont être sans doute plus prudents, ils vont peut-être, s'ils partent en voiture, réfléchir. On voit bien en ce moment les locations en Bretagne, on sont plus réservés que sur la côte méditerranéenne, par exemple. Vous voyez, parce que c'est moins loin. Donc, il peut y avoir des... Mais pour l'instant, en gros, le budget sorti, on va dire, vacances et restaurants, c'est un peu le même budget souvent. Pour l'instant, il n'est pas touché. Les gens préfèrent changer de supermarché, changer d'huile, vous voyez, faire des économies comme ça. Mais le budget, on va dire aération de la tête, ils ne sont pas prêts à y toucher tant qu'ils peuvent.
Vous constatez ça aussi, Alain, dans ça?
Alors nous, non seulement on constate un maintien, on constate une hausse du budget. On voit que les Français, on le sait, ont économisé pendant la pandémie. Et encore en venant, les terrasses des cafés sont pleines. Alors c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui. Les gens qui partaient pas, il y en a plus qui vont partir. Ceux qui partaient en France partent peut-être dans un 4 étoiles. Avant, ils partaient en 3 étoiles. Il y a un engouement pour les vacances à l'étranger, vraiment un engouement. Et on est vraiment dans un achat plaisir après 2 années de privation.
Donc du coup, on a, j'allais dire, joué les cigales, on a économisé. Et puis là, tout d'un coup, on casse sa tirelire, on se dit, allez, cette année, c'est la bonne.
Surtout qu'en effet, personne ne sait ce qui va se passer avec la pandémie. Plusieurs fois, on a été surpris du retour du coronavirus. Donc, tant que c'est possible, et on pense qu'en tout cas jusqu'à la fin de l'été, avec les températures élevées, on peut partir. Alors, les Français partent.
Plusieurs autres marqueurs. Thierry Orsini parlait des vacances en été à la montagne. Ça, c'est quelque chose que les Français ont découvert aussi.
Alors, les Français l'ont découvert. C'est vrai, on en parle maintenant.
Parce qu'on n'avait pas le choix. Il fallait rester dans l'Hexagone, quoi, en gros.
Ça reste marginal, clairement. Ouais. Alors, je sais que les professionnels de la montagne font tout pour envoyer les Français à la montagne, mais c'est peut-être 5-10 % des Français qui partent en France qui partent à la montagne. Pourquoi? Parce qu'ils y vont l'hiver, déjà. Et puis,
ce que disait Jean Viard, tout à fait vrai. Hein.
Tout à fait. Et ceux qui peuvent partir, l'été, ils vont partir sur la Côte d'Azur, le Sud-Ouest, la Bretagne, pour retrouver le contact avec l'eau, la plage, le sable chaud. C'est ça qui fait rêver les Français l'été, plus que la montagne.
Ouais, les Français préfèrent le soleil et la plage. On est parti de 11 %, on arrive à 20 %. Et le pourcentage des voyages détente a quasiment triplé. Thierry Orsoni, la détente, c'est quand même un peu votre cœur de cible. Enfin, en tout cas, quand on arrive sur certains clubs, on peut se dire qu'on oublie tout et qu'on est au bout du bout du bout du bout du monde, même si encore une fois c'est un positionnement haut de gamme. Vous constatez ça aussi, la détente, le zen, le plaisir, le allez, on lâche tout?
Eh bien, écoutez, oui. Alors, j'allais dire, on l'a constaté depuis longtemps, mais effectivement, cette tendance se renforce. En fait, ce qu'on constate, nous, c'est que, bien évidemment, je parlais de la montagne, mais nos villages, ce qu'on appelle les villages de la Nord-Méditerranée, c'est-à-dire la Sicile, mais aussi l'Espagne, le Portugal, la Grèce, et puis la France, se remplissent. Et effectivement, les familles plébiscitent, je dirais, un peu la formule du club, c'est-à-dire une formule de vacances l'esprit libre, puisqu'on a... On a effectivement toujours une épée de Damoclès avec l'éventuelle reprise, mais on a montré qu'on était capable de gérer quand les choses se passaient pas bien. Et puis le fameux combo du club, c'est-à-dire le tout compris, les activités multiples, variées, et effectivement la nécessité peut-être d'être plus à l'écoute de son corps, de ce besoin de reconnexion, donc le développement des activités wellness, très important, le yoga.
Ah oui, donc ça veut dire qu'on a dû innover, on a dû innover en fait.
Alors, on a effectivement continué à innover, continué à essayer de garder le carter d'avance. Et par exemple, dans un autre des gros marqueurs du Club Med, que vous connaissez sans doute, l'encadrement des enfants, on lance une offre Mini Club Plus, qui est effectivement notre formule, dont on a été pionnier, revisitée, réinventée, et en permettant effectivement aux enfants de tous âges de vivre une expérience assez unique, tout en permettant aux parents d'être avec eux quand ils le souhaitent.
Jean Viard, en entendant Thierry Orsoni et également Alain de Mendonça, on a ce côté où on a envie de tout lâcher et surtout pas s'embêter. On n'a même plus envie de faire la cuisine. On a vraiment envie d'avoir la tête complètement vidée.
Oui, alors bon, il ne faut jamais oublier que les vacances, c'est d'abord de l'intrafamilial. Donc il faut toujours replacer, parce qu'effectivement, le premier lieu de destination, c'est la famille en réalité dans les vacances. Mais après, c'est vrai que cette année, je pense que franchir une frontière, c'est un sentiment profond de liberté, parce qu'on n'a pas pu le faire. Donc si vous voulez, ça a pris de la valeur au fond, parce que c'était interdit.
Oui.
Mais après, il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'au dernier moment, c'est quand même le climat qui décide. C'est-à-dire que pour l'instant, il fait chaud, on commence à nous dire qu'il va faire très beau cet été, oui. Ce qui favorise la Bretagne d'une certaine manière.
Oui.
Mais il se peut très bien qu'il se mette à pleuvoir et que tout le monde se sauve de l'autre côté. Donc, si vous voulez, faut faire attention. Il y a les gens qui réservent maintenant, c'est clair. Il y a ce que les gens affirment qu'ils ont envie de faire. Et puis, quand même, le climat, à un moment, est décisionnel parce qu'il y a une chose qui est le plus important dans les vacances, c'est de pas les rater. Et qu'il faut jamais oublier que dans la majorité des gens, ils ne partent qu'une fois par an. Et alors, c'est pas vrai dans tous les milieux aisés partent plusieurs fois, mais disons le cœur de cible des couches moyennes, on va dire, entre les familles autour de 2-3 000 euros de revenus familial, ils vont effectivement partir qu'une fois. Et donc, surtout, ne pas rater ses vacances. Et donc, au dernier moment, s'adapter. Il y a le prix, évidemment, mais le climat qui est extrêmement important.
Le climat, alors c'est assez amusant ce que vous dites, Jean Viard, et je parle également à mes autres interlocuteurs. Il y a eu une année 2020 où on a eu un été absolument incroyable, où il a fait des températures, et Jean Viard le disait, hallucinantes en Bretagne. On prévoit plus ou moins les mêmes, même si c'est difficile, la météo, et Valérie Darmon et Anissa Haddadi peuvent le confirmer. C'est très très difficile de se projeter comme ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance. Mais on a eu un 2021 où les gens qui étaient partis en Bretagne se sont dit on va y retourner, ou même sur la côte atlantique, ça a été... vraiment moyen, Alain Mendoza.
Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent pas rater leurs vacances. Et c'est vrai que partir en Bretagne, c'est quelque part prendre un risque. Alors, des fois, c'est gagnant, des fois, c'est perdant. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que...
Après, les Bretons s'en foutent. Ça, je peux vous dire que...
Je parle...
les vrais Bretons, qu'ils fassent beau ou pas beau, ça, je peux vous dire.
Aujourd'hui, les valeurs sûres, c'est l'Italie, la Sicile, la Sardaigne.
Ouais.
C'est la Grèce et ses îles, Crète, Corfou, Rhodes. C'est l'Espagne, Baléares et Majorque, Minorque. La Tunisie qui revient, le Maroc.
Le Maghreb, ça commence à revenir.
Faut pas oublier que la Tunisie a été pendant plus de 10 ans la destination numéro 1 des Français. Alors, avec le Covid, bien sûr, ces destinations du Maghreb sont fermées. Aujourd'hui, elles se réouvrent. Et on a un retour en grâce progressif de la Tunisie, dans une moindre mesure du Maroc, qui est une destination moins estivale. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que les
Pourquoi
Français...
Pourquoi est-ce qu'elle est moins estivale? Parce qu'il y a moins de Méditerranée?
Parce que Marrakech, ouais. Qui est la ville phare du Maroc...
Il n'y a pas de mer.
Maroc, il n'y a pas de mer.
Ouais.
Donc, et Agadir, qui est la deuxième ville...
C'est pas la même mer.
C'est pas la même mer non plus. Donc finalement, si on veut de la mer calme, de la belle mer, du sable chaud, pas trop de vent... On part à Djerba, par exemple.
J'ai entendu dire que les prix des billets d'avion augmentaient beaucoup pour le Maroc. Est-ce que c'est vrai pour la Tunisie ?
Alors, malheureusement, ce n'est pas vrai que pour le Maroc. Nous, on a des graphes, on suit l'évolution des prix tous les jours, parce qu'on a la chance d'avoir à peu près entre 2 et 3 millions de visiteurs uniques qui viennent sur le site Promo Vacances ou Fram tous les mois. Et donc, on suit l'évolution des prix un peu comme les cours de la bourse. Mmh. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate, malheureusement, que les prix ont tendance à s'envoler à cause du pétrole. Et puis aussi parce que les compagnies aériennes ont besoin de regagner de l'argent.
De se refaire
une industrie.
Bah les voyagistes aussi, hein, d'une certaine manière.
Les voyagistes aussi, mais les compagnies aériennes particulièrement, parce que pendant la crise, elles avaient tous ces avions qui étaient parqués dans un coin des aéroports, qu'il a fallu maintenir, payer, assurer, entretenir. Et aujourd'hui, les prix augmentent. Et le conseil qu'on peut donner aux Français, c'est de ne pas attendre la dernière minute. Parce que moi, je vois les prix qui montent tous les jours. Et les bonnes affaires, on peut encore les faire en mai ou en juin. En juillet, j'ai peur que les prix soient très chers.
C'est Panorama que vous écoutez sur Europe 1. On parle de vos voyages et on revient dans un instant.
Soir week-end.
Pierre Devine. Et on parle de vos vacances, les vacances 2022, sachant que vous êtes une majorité à vouloir partir au-delà des frontières, même si vous avez découvert des fabuleux spots en France et peut-être que vous y retournez. On va en parler dans un instant avec le sociologue Jean Viard. Nous sommes également avec le directeur de la com du Club Med, Thierry Orsoni, et Alain de Mendonça, président du groupe Caravelle Promo Vacances et Fram. Alain, vous me disiez à l'instant, pendant la publicité, que cette guerre en Ukraine, contrairement à la guerre du Golfe, où tout s'était arrêté, bah, finalement, les gens continuent à partir en vacances.
C'est vrai que pendant la guerre du Golfe, il y en a eu deux. On a observé une chute des réservations entre moins 50 et moins 70% pendant 3 à 6 mois. Donc, quand la guerre en Ukraine s'est déclarée, on est beaucoup plus proche, c'est l'Europe. C'est quand même très surprenant, cette guerre, par
violence.
Sa violence. Mmh. Je me suis dit, on va à nouveau replonger. Mmh. Moins 50, moins 60%.
Et alors ?
Pendant 3 semaines, ouais. On a senti un ralentissement. 10%, 15%, plus attentisme.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe ? Ça va durer ? Est-ce que c'est grave ? Et puis au bout de 3 semaines, on est à nouveau revenu. On est en croissance aujourd'hui d'à peu près 30% par rapport à avant le coronavirus, par rapport à 2019. Pour moi, c'est le signe que les Français veulent prendre des vacances. On leur parle de pandémie, on sort d'une élection présidentielle quand même très tendue. On leur explique que leur pouvoir d'achat est en baisse. Il y a une guerre.
Et que c'est pas fini.
Et que c'est pas fini. Il y a une guerre à plusieurs milliers de kilomètres sur notre continent européen. Ils écoutent, ils regardent, ils s'informent, ils rentrent chez eux, ils réservent leurs vacances.
Ouais, ils se disent, on part en vacances puis on verra après.
Parce qu'ils en ont marre. Trois années où, en allumant la radio, on entend beaucoup plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, je lâche prise, je pars au soleil, je vais faire des rencontres, je vais faire du sport, je vais me reconnecter avec moi-même, je passe du temps en famille, mais je veux un peu oublier que la vie, en ce moment, est compliquée.
Thierry Orsoni, là, c'est même plus une question de positionnement pris, hein. C'est une question, j'allais dire, de postulat. Est-ce que, là aussi, vous constatez ça ?
Oui, même constat. Je crois que malgré effectivement les horreurs qui nous sont déversées chaque jour sur cette horrible guerre, l'envie effectivement de vacances reste plus forte. Alors je crois qu'il y a quand même une prime effectivement aux marques qui ont su prouver qu'elles étaient capables de gérer les situations imprévisibles. Et l'expérience du Covid, j'allais dire, hélas, nous a montré que la capacité à gérer la complexité, les changements fréquents, les changements d'horaire, les annulations, la nécessité de devoir envoyer un avion pour récupérer des clients parce que les frontières fermées, a démontré effectivement la capacité du club à, encore une fois, offrir une expérience de vacances jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le faire pour des raisons qui sont largement indépendantes de notre volonté. Mais je crois qu'effectivement, après ce Covid, et dans le contexte actuel qui n'est pas fondamentalement toujours folichon, eh bien, cette envie de faire cette parenthèse estivale est vraiment plus forte que jamais. Et encore une fois, des destinations proches. Mais on constate aussi chez nous, alors c'est peut-être la spécificité de notre produit et les raisons que je venais d'évoquer précédemment, un engouement aussi pour des destinations plus lointaines. La République dominicaine, Punta Cana, Mitches, notre resort exclusive collection, sont très demandés. L'île Maurice, où nous avons fait une rénovation, l'est également.
On veut du beau et on veut du propre aussi. J'ai lu ça dans une étude, que les Français choisissaient leurs vacances en fonction de la propreté. Tiens.
Bah ça, c'est un requis minimal, si je puis dire.
Mais c'est aussi pour la destination, Alain demande.
Alors, quand on fait des études marketing, en fait, il y a des éléments qui contribuent à la satisfaction du client et il y a des éléments qui continuent à ce qu'on appelle le mécontentement, la dissatisfaction. Oui. Bon, la propreté, si elle n'est pas là, ce n'est pas un élément qui va faire que la personne va dire, le client va dire, j'ai passé de très bonnes vacances parce que ma chambre était propre. Non. Par contre, si la chambre n'est pas propre ou si l'hôtel est sale, alors là, c'est un élément qui va créer du mécontentement. Mais la qualité client, elle se fait avec la nourriture. Les Français adorent bien manger. Ça, c'est une spécificité. Nous, on travaille avec des hôtels qui travaillent avec des Allemands ou des Anglais ou des Italiens. On ne travaille qu'avec des hôtels pour nos clubs Framessima qui savent faire de la nourriture pour les Français. Parce que le Français, il est très exigeant. Et encore, je reste poli sur la nourriture.
Ouais. Jean Viard, le service, hein, ça reste quand même une des qualités requises.
Oui, le service, l'empathie, je veux dire, vous savez, les vacances, c'est au fond ce qu'on cherche. Bien sûr, c'est des endroits, des climats, mais c'est du lien avec des gens, c'est la qualité même de la relation avec le serveur qu'on risque de voir pendant 8 jours ou 15 jours, etc. Je veux dire, c'est beaucoup de relations, c'est quelque part, c'est beaucoup d'amour, les vacances, hein, dans la famille, dans le couple, avec les amis, avec les gens. Et je crois que ça reste central. Mais je voudrais dire autre chose, c'est qu'on est dans une époque de changement fort, vous voyez, avec la pandémie, il y a à peu près 1 million de couples qui se sont séparés, les gens se posent la question du sens de leur travail, il y a le télétravail qui change pour des millions de Français.
Il y a la grande démission, hein, aux États-Unis et qui commence
voilà,
à faire tâche.
Aux États-Unis, c'est 50% des gens qui étaient en télétravail qui ont démissionné, dont une partie sont devenus indépendants, mais les Américains changent beaucoup plus facilement. Mais nous, on n'a jamais créé autant d'entreprises privées en France. Donc, il faut bien comprendre que au fond, on est tous, moi je dis, on est comme si on sortait tous d'une grande maladie individuelle, individuellement, mais collectivement. Vous savez, on est un peu dans la situation de quelqu'un qui a un cancer, et puis un jour, on lui dit « Bon, écoutez, vous êtes guéri. » Et il se dit « Qu'est-ce que je vais faire de la vie qui me reste, quoi ? Je vais pas tout recommencer comme avant. Il s'est passé quelque chose de trop inouï, c'est que j'ai failli mourir. » Et d'une certaine façon, même si c'est un peu imagé, parce que la plupart d'entre nous n'avons pas été en danger individuel, mais je crois qu'on est dans cette logique. Et donc, les gens, ils veulent faire des choses qui ont du sens. Ils veulent se demander si vraiment ce qu'ils font est bien, leur travail, leur couple, leur maison. Regardez l'année dernière, on a vendu 800 000 maisons en dehors des grandes métropoles. Paris a perdu 6 000 enfants dans ses écoles. On pourrait multiplier ces éléments. Mais c'est pour dire que la société bouge et que dans ce mouvement, ça n'existe pas. Ce mouvement, je crois que si vous voulez, il y a une profonde volonté que sa vie ait du sens, que la vie qu'on a sauvée ait du sens et que donc, si vous voulez, on va faire des choses exceptionnelles. Et c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, les milieux aisés ont plutôt fait des économies parce qu'ils ont arrêté de consommer des choses souvent un peu inutile. Donc ceux-là, ils ont, en plus, il y en a qui ont de l'argent. Mais cette question du sens, de la qualité de ce qu'on va faire, et c'est là où la qualité du service, la qualité de la nourriture, voyez, le fait de sentir aimé par les gens qui vont nous entourer, de respecter, je pense que ça prendra une importance comme jamais.
Alors au-delà de la grande démission, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est que c'est vrai qu'en dans les années 80 et encore il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait des grandes tartines, c'est-à-dire qu'on prenait les grandes vacances d'été, on emmenait ses enfants et ça, puis le reste de l'année, est-ce qu'il y a aussi des nouvelles habitudes de consommation et on a besoin comme ça, par-ci par-là, d'un petit week-end, d'un petit jour, etc. Et du coup les voyagistes que vous êtes, Alain demande ça, sont obligés de se plier à ces nouvelles habitudes de consommation qui sont des habitudes immédiates, j'allais dire des habitudes Netflix.
Alors c'est vrai que les comportements ont beaucoup changé. Maintenant, les 3 semaines ou les 2 semaines du mois d'août, ça reste pour les Français, plus que pour d'autres marchés européens, une tradition. Les Français ont besoin...
Plus
que d'autres ont besoin.
Il y a des pays où il n'y en a pas.
Beaucoup moins. Ah oui, beaucoup moins. Ouais. La France est un pays industriel, les usines étaient fermées l'été, donc ça, il y a des pays qui étaient moins industriels en Europe. Et c'est vrai que ça a créé un réflexe qui s'est transmis de génération en génération, où on a besoin de cette coupure. Après, une fois que cette coupure est faite, on le voit, nous, on a lancé une gamme qui s'appelle la gamme Fram Immersion, où pendant un week-end, on va proposer une immersion dans une ville européenne. En ce moment, parce que surtout, c'est l'Europe qui est très demandée. Et il y a ce besoin. Alors, le mois de mai, cette année, est très particulier parce qu'il y a particulièrement peu de ponts. Hein,
Il y a des années avec.
C'est une mauvaise année. Mais il y a ce besoin permanent. Et aussi, l'hiver, c'est vrai, les Français cherchent à partir de plus en plus au soleil, ce qu'on appelle les destinations soleil d'hiver. On veut partir, si on peut se permettre, à Punta Cana, à l'île Maurice, aux Canaries, en Égypte, qui marchent très bien l'hiver.
Ouais. Thierry Orsoni, c'est intéressant le positionnement du Club Med, qui encore une fois est une boîte française. Hein. On est fiers, 70 ans du Club Med, c'est quand même made in France, c'est comme d'autres enseignes qu'on pourrait citer qui sont vraiment des marqueurs. Vous vendez aux Français, puis vous vendez aussi beaucoup aux étrangers. Ce que vient de dire Alain de Mendoza est assez intéressant. C'est-à-dire, nous, on a cette, accoutumance aux 2, 3, 4, 5 semaines de l'été. C'est pas forcément vrai pour vous qui vendez à d'autres clients.
Non, alors sans parler des Américains ou des Asiatiques, oui, qui effectivement ont peu de vacances, mais le besoin de coupure, il est quand même présent partout. Vous voyez, pour vous donner un exemple, alors on n'est pas sur l'été, on est sur l'hiver, mais on a accueilli l'hiver dernier pas loin de 20 000 clients brésiliens, dont c'était les vacances, les grandes vacances, si je puis dire, et dont pour qui l'exotisme a été de venir dans un de nos villages à la montagne. Donc effectivement, il y a des habitudes, et je suis tout à fait d'accord pour la France sur le fait qu'il y a cette coupure, et on constate de plus en plus chez nous de tendance à nous demander 10 jours, voire 2 semaines, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Et 10 jours, c'est pour nous la fin de cette idée qui était un peu reçue qu'on ne pouvait partir au Club Med que du samedi au samedi. Tout ça est effectivement terminé parce que je dirais aujourd'hui tout est flexible, l'offre aérienne est flexible, la nôtre l'est aussi, ça se sait sans doute pas assez. Mais en ce moment, on constate à la fois un nombre record de demandes de séjours longs, c'est-à-dire supérieur à 7 jours, ça peut aller jusqu'à 2 semaines, et les dispositifs, effectivement, de workation, ce mot un peu horrible, hein, qui combine vacances et travail, j'ai pas trouvé d'équivalent en français, facilitent effectivement le fait qu'on puisse rester plus longtemps. Mais en même temps, aux ailes de saison, et en ce moment, on y est en plein, on a de fortes demandes, notamment chez nous, parce qu'il y a toujours cet élément d'attractivité lié aux nouveautés et au fait que quand on lance de nouveaux produits, entre guillemets, ils sont très demandés. La Palmière, qui a fait l'objet d'une rénovation, Marrakech, dont on parlait tout à l'heure, qui certes n'est pas balnéaire, mais reste une ville culturelle et de découverte fondamentale, et où on a fait une rénovation de notre village, et puis la Sicile, dont on parlait également, et Marbella, en Espagne, qu'on vient d'ouvrir, et qu'on ouvre plus exactement le 20 mai, et qui consacre le retour du Club Med en Espagne. Donc, je pense qu'il y a effectivement des tendances qui sont plus aussi caractérisées que par le passé. Chez nous, il y a une perception nouvelle que l'on a effectivement de notre offre. On est beaucoup plus flexible qu'on ne pouvait l'être à une certaine époque. Et les gens commencent à le voir.
Jean-Viard, qu'est-ce que vous appelleriez du zapping des vacances ?
Non, je dirais pas comme ça. Je dirais que les gens, en fonction de leurs revenus, de l'année qu'ils ont vécu, c'est pas tellement je pars ou je pars pas en vacances, c'est je pars combien de temps. C'est-à-dire, en fait, c'est la durée du séjour, quoi. Et si effectivement on a un peu plus d'argent, ben on va passer quelques jours de plus. Vous voyez, on règle plutôt sur la durée que sur le non-départ. En fait, d'ailleurs, on voit bien des gens dont le revenu baisse, qui partaient en vacances, ben ils vont peut-être plus partir de la même manière, ils vont peut-être aller plus dans la famille, etc. Mais ils vont partir quand même. C'est-à-dire, quand on a pris l'habitude de partir, ne pas partir est un emprisonnement. Et puis, ce qui fait nouveau, si vous voulez. Le télétravail va changer beaucoup de choses, parce que il y a beaucoup de gens, on le voit très bien sur les week-ends, il y a beaucoup de gens qui partent en week-end le jeudi soir pour éviter les embouteillages, qui rentrent le mardi matin. Et ils ont travaillé, en fait, 2 jours dans leur résidence secondaire ou dans leur lieu de vacances. Là, je pense qu'il va y avoir des familles qui vont plus facilement partir, même si un des deux membres du couple, à certains moments, va télétravailler, si vous voulez. Ça va permettre d'étirer le temps, parce que derrière, il y a le temps de vacances des enfants, qui est évidemment beaucoup plus long que celui des salariés. Et je pense que le télétravail va introduire, alors c'est pour ça que le haut débit me semble un objet objet de plus en plus indispensable absolument partout. Et c'est un élément important parce que de plus en plus, on garde un œil sur son travail à l'intérieur du temps de vacances. C'est aussi une façon de dire, moi, vous savez, je suis en vacances, mais quand même, je travaille aussi. Vous voyez, c'est valorisant quand même. Je suis pas un abruti sur la plage. Donc, il y a un peu cette image. Mais je crois que c'est vrai qu'il faut réfléchir au mélange entre vacances et télétravail, ce qui permet aussi des vacances de couple, parce que il se trouve qu'à une époque, j'ai conseillé le Club Med, et c'est vrai que c'était assez frappant, notamment en juillet, par exemple, il y avait effectivement pas mal de dames avec des enfants. Je pense que ça peut se développer davantage, vous voyez, parce que s'il y en a un des deux qui travaille, bah, il peut télétravailler en étant tout à fait tranquille au Club Méditerranée.
Thierry Arsenault, vous vouliez rebondir?
Non, mais je ne peux qu'abonder, effectivement. Et le fait que l'on ait des installations dans lesquelles on a effectivement de grands espaces, non seulement la plage et les installations de l'hôtel, mais également de grands jardins et d'endroits où on peut effectivement télétravailler tout en ayant effectivement
un
bon wifi premium.
Il faut un bureau, il faut un cowork, j'allais dire, presque dans vos clubs à côté de la plage zen. Merci
beaucoup. Et de plus en plus de temps, le gens le testent.
Merci beaucoup à vous trois. Merci à Thierry Orsoni et dire comme du Club Med. Merci au sociologue Jean Viard qui publie le 2 juin prochain l'an zéro du tourisme et non pas du traumatisme aux éditions de l'Aube. Ça sera pour une autre fois le traumatisme. Et Alain de Mendoza qui est donc le président du groupe Caravelle, Promo Vacances et Fram.